Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
CJMD, c'est là que ça se passe.
Rebel.
Le pire, c'est que c'est loin d'être la première fois que ça m'arrive, là. Je suis dans mon auto puis j'entends le début de mon émission. C'est vraiment un bon beat, ça, Guillaume Dion.
Plaisir, c'était le fun.
Non, c'était le fun. Non, tu sais, c'est comme.
C'était un bon goal. On s'est promené un peu.
Le choix musical était bon, c'était pas le fun parce que c'est une pause de pont, là. Qui ouais, fait qu'on ça, commence en retard, là. OK. Puis il est tellement arrête dans ce temps-là, là. C'est comme j'ai le cou comme un crowbar, là, tu sais. C'est sûr, pareil, de ne pas être de bonne humeur parce que, ben, je vais m'excuser, par exemple, auprès du maire Gendron parce que c'est son segment à lui qui va avoir été échangé comme de la musique ici à midi. On va se reprendre le 21 octobre, on a déjà convenu de ça. Par contre, ma plus belle surprise, c'était que mon invité était déjà arrivé. Il avait réussi, lui, la grande traversée du pont.
Oui.
Pierre Blais est avec moi. Salut, Pierre!
Salut, Marie!
Oh, c'était le fun, tes amis, un matin, tout le monde réagit, sont contents. Tu sais, c'est comme on s'est. T'sais, avant, on se parlait plus souvent que ça au micro. Ouais. Fait que là, c'est comme vu que c'est expansé, quand ça arrive, c'est un grand événement.
C'est un grand événement, oui.
T'as amené ta guitare, laquelle ben oui. T'as amené aujourd'hui?
J'ai amené ma guitare acoustique, ma Martin G16 RGT.
T'es donc bien fin d'avoir amené ta guide. T'es surtout fin d'être arrivé ici avec des belles histoires parce que tu veux pas, t'es allé te promener au Tennessee avec ton père, Michel.
Ben oui. C'était un voyage père-fils. Dans le fond, ça a été l'idée à mon père. Il va faire ça. Je prête, je pense bien. Il dit, ça te tenterait-tu d'aller à Nashville, de se promener, même fils?
Étais-tu déjà allé, lui?
Non, c'est ça. Fait que.
T'es un candidat idéal. Là.
Ben oui, mais avant, il faut dire qu'avant, on avait le magasin qui.
Le marché fleuri.
Qui ont eu pendant 35 ans de temps. Fait que, veux pas, mes parents, ils ont été.
On vient la larme à l'œil. Tous les clients du marché fleuri. Quand tu dis ça, on y repense. Parce que là, c'est comme. On est encore dans le deuil.
C'est quand t'es propriétaire, travailleur dedans, c'était 35 ans-là, était 35 ans assez sans voyage, on va dire. Là,
oui.
Ben, on a fait des petits voyages avec nos clients, le parlant, mais pas des voyages physiques, on va dire.
Oui, parce qu'il faut rappeler que vous aviez vraiment le modèle de commerce que c'était le dépanneur agencé à maison, à maison familiale, tu sais.
Genre de magasin général avec une boucherie à l'arrière.
Il y avait des petites autos à côté de la caisse. J'ai tout a été ma place préférée. Là. Juste la place pour dropper la bière. Tout avait du charme. Là.
Mmh, ben, c'était vintage.
Par la fenêtre de la cave.
C'était à l'ancienne. Là. C'était old school. Là.
C'était old school, exactement. Ça avait une valeur inestimable. Fait que ton père est un homme de bon goût, OK,
ben oui.
qui est capable de danser, d'apprécier la vieille musique, qui a les vieux chars. Fait que d'aller se promener au Tennessee, c'était une idée fantastique. Là.
Ben, je pense que oui. Ben ça, lui, dans le fond, qu'est-ce qu'il voulait vivre avec moi, c'était un voyage trip musique. Là, parce que,
musique!
Ben, c'est ça. Puis là, moi, ben, en plus, quand il m'a offert ça, j'ai dit oui. Ben, j'ai arrêté fou de dire non. Là.
Ouais.
Parce que moi, dans ma tête, Tennessee, ça sonne, ben pour moi personnellement, ça sonne mythique. Tu sais, y a beaucoup de choses que, par rapport à l'histoire américaine qui est reliée au Tennessee. Juste à penser, les premiers balbutiements du rock'n'roll ont été là.
C'est pis, ça, c'est ça.
Ou ben, juste à penser à la boisson, le whisky du Tennessee. Pis,
Ah, d'ailleurs, t'as l'air d'être allé dans un bar un peu, le bar Whiskey N, j'ai pas trop quoi. J'ai vu ça dans tes photos.
Whiskey and Bourbon. Ouais, ben ça, c'était le bar Whiskey Rivers. Le bar que t'as vu, c'est le bar dans le fond, c'est marqué Whiskey and Bourbon, mais le nom du bar, c'était Whiskey River avec... des taureaux mécaniques.
OK, des taureaux mécaniques, c'est ouais. Ça. J'avais l'impression d'avoir déjà vu le nom, comme j'avais déjà vu l'espèce de bar aussi que tu as photographié, que tu pédales pour avancer.
Oui, ça, c'est les tavernes bars. Dans le fond, ça, il y en a plusieurs. Là, c'est... Parce que ça, il faut spécifier que ça, au Tennessee, on est à Nashville quand on est là. Puis Nashville, c'est une ville de party. Là. Tu vas pas là pour relaxer. C'est comme une espèce de...
Tu vas pas au musée, finalement, à Nashville. Là.
Ben, tu peux y aller au musée, il y en a, là.
OK, mais c'est surtout pour aller faire le party, là.
Ouais.
OK, t'as-tu fait le party tant
que
ça?
Ouais, ben là, je suis avec mon père, on s'est pro... parce que, qu'est-ce qu'il faut savoir là-bas, c'est... tu sais, les gens qui connaissent la ville de Québec, il y a la Grande Allée, le bout avec les bars, là.
Ouais.
Bon, ben, à Nashville, leur Grande Allée s'appelle Broadway. Mais Broadway, le même nom que Broadway à New York. Mais pour avoir été à Broadway à New York, celui-là à Nashville est pas mal plus intéressant que celui-là à New York. À mon goût, à moi.
En plus.
Parce que celui-là à New York, c'est sûr qu'il y a beaucoup de spectacles, de théâtres, tout ça. Mais à mon goût, à moi, celui-là à Nashville, c'est comme un carnaval à l'année Broadway. Dans le fond, les bars ouvrent à 9-10h le matin. Puis dans le fond, c'est ça. C'est comme le bout des bars. Mettez le bout des bars de Grande Allée, mais x5.
Okay, ouais.
Il y a des bars chaque côté de la rue, souvent des bars 2, 3, 4 étages. Oh. Et en plus, il y a du monde sur le toit parce qu'ils font des terrasses. Puis à chaque bar, à chaque porte, ben, c'est de la musique live. Là. C'est pas de la musique faite par un DJ. Fait que c'est tout le temps des bands de musique ou ben, des musiciens qui sont là à chaque bar pendant je sais pas combien de kilomètres.
Tu parles d'un délire à l'année longue, ça?
Ouais. Puis c'est pas juste sur Broadway parce qu'il y a des rues transversales. Qui, eux,
c'est
ont
un
son...
quartier, là.
Ben là, les rues transversales, ils ont aussi plein de bars avec des musiciens. Mais tu vois que c'est un petit peu moins cher d'aller sur les rues transversales parce que là, t'es pas sur la main, mais quand même, ça se passe là. Puis sur la main, ben, c'est dur à décrire. Surtout, on sort de pandémie, puis on a comme été pas de party pendant 2 ans. Puis là, tu tombes dans un autre univers. Tu sais, il y a des autobus scolaires qui ont enlevé le toit carrément. Puis c'est du monde, ça brosse dans l'autobus avec un chauffeur en avant, puis de la musique, puis
les autres, ça roule, ma boule.
Ils se promènent dans les rues, puis après ça, t'as des tracteurs de ferme avec une charrette en arrière. La charrette est remplie de monde. Le party est pogné dans
mais
la charrette.
Voyons, toi,
Des limousines de fortune.
Des limousines de fortune. J'ai remarqué sur tes photos et tout que, tu sais, c'est comme le chapeau de cowboy, c'est la calotte du site, là.
Ouais, il y a ça aussi.
Ça aussi, ça diffère pareil, là.
Puis c'est ça. Puis qu'est-ce qui m'a impressionné et tout, c'est là, tu sais. Premièrement, le nombre d'établissements de bars. Puis dans chaque bar, il y a des musiciens live. Mais la qualité des musiciens live dans chaque bar, tu sais, il n'y a rien de mauvais. Là, parce que dans le fond, Nashville, c'est comme un peu un centre pour la musique. Tu sais, c'est comme là que ça se passe. Puis tous les musiciens partout aux États-Unis ou même au Canada s'en vont là pour...
C'est encore comme la Mecque, tu sais.
Oui.
Mettons, tu t'en vas-tu encore là pour essayer de faire exploser ta carrière?
Oui, mais je pense que oui, parce que...
C'est encore le noyau de tout,
pour avoir jasé qu'il y a une couple de musiciens puis musiciennes, dans le fond, là-bas, c'est que... quand ils jouent dans un bar, exemple, ils n'ont pas de salaire en tant que tel. Souvent, ils ont une grosse chaudière marquée type en avant, mais eux, dans le fond, ils jouent bénévole. Ils jouent là, puis espèrent avoir le plus de types possible, mais ils sont pas payés par le bar parce que eux, dans le fond, c'est juste d'avoir l'exposure. Ils ont la possibilité de jouer à Nashville.
D'être vu, puis
sur
d'être
la Broadway, puis peut-être qu'ils vont avoir un gars de compagnie de disques ou de record qui va prendre une bière là, puis qui va dire, hey, moi, je vais aller te voir après le show.
C'est leur rêve pareil, hein?
Ouais. Puis, puis c'est pour de vrai. Puis, même, genre, t'es testé dans un bar, puis là, tu te rends compte, finalement, ce bar-là, il appartient à Kid Rock, puis à côté, t'as le bar qui appartient à Alan Jackson. Après, tu sais, il y a beaucoup d'artistes qui ont investi sur cette rue-là aussi.
Aussi.
Mais, c'est ça.
Fait que là, non seulement, c'est comme, on se fie encore, juste dans le genre musical, là, parce que tu me dis, c'est encore une place, où on espère que la carrière va décoller. Tu sais, on a mentionné que c'était l'épicentre, en tout cas, le rock'n'roll est né là.
Ouais,
là,
plus à Memphis.
Plus à Memphis.
Ouais. Mais c'est ça, Nashville, c'était l'épicentre. Ben, à l'époque, c'était l'épicentre.
Tu dirais-tu que c'est le country, dans le fond? C'est juste le country ou il y a d'autres sites musicaux?
Ben, quand on se promène dans les bars, c'est country ou rock.
Ouais, parce que Kid Rock, tu vois, il est à cheval, c'est les deux, là.
Ouais, c'est ça. C'est les deux. Là, c'est sûr que tu n'auras pas une scène hip-hop à Nashville. Là. Ça t'en trouveras pas.
ça manquerait pas d'originalité, en tout cas.
En tout cas, j'en ai pas vu. Peut-être ça existe, là, mais dans les. Je sais pas combien de bars j'ai fait. On va dire 50, tu sais.
Ah ben, t'as coté pas mal. Ouais.
J'en ai pas vu. Ben, tu parlais de musée tantôt. Il y a pas loin de justement de la Broadway, il y a le musée sur Johnny Cash. Le Johnny Cash Museum, mais moi je trouve ça un peu ironique parce que c'était comme Nashville dans le temps qu'il l'avait un peu envoyé, il l'avait tossé dans les années 80 parce que c'était plus à la mode vraiment Johnny Cash. D'où la fameuse photo que Johnny Cash fait un finger.
Oui, que tout le monde a. Là,
ben, c'est ça, ben, cette photo-là, il envoyait chier les élites de Nashville parce qu'il ne voulait plus rien savoir de lui. Puis dans le temps, c'était la gang de métalleux qui l'avait repris sous son aile avec Rick Rubin puis tout ça. Là. Puis là, ben, à ce temps qu'il est parti, puis qu'il est plus là, ben là, à Nashville, là, ils sont réappropriés de Johnny Cash, vu que là, ils ont un beau musée, puis il y a des pancartes de Johnny Cash partout. Ben, en tout cas, je trouve ça un peu spécial, mais en tout cas, c'est.
Ben, probablement que ça se fait se revirer dans sa tombe, ça, là.
Peut-être. Ou peut-être, je sais pas.
Mais ben, quand tu dis, parce que chez Sun Records, en tant que t'es allé te promener.
Ouais, ça, c'était à Memphis.
Ça fait que t'as fait les deux, dans le fond.
Ouais,
là.
Ben, c'est sûr. On avait loin de tôt là-bas, là. Fait que. Parce que c'est quand même un grand état, le Tennessee. Entre Nashville puis Memphis, c'est 3h30 de route.
Oui.
Fait que maintenant, on est parti, puis l'objectif, moi, c'était d'aller le voir Sound Records. C'est là que le rock'n'roll est né durant les années 50. Mais le feeling que ça a fait rentrer là, je pensais pas vivre ça.
Ben, je t'ai senti fébrile.
Ben oui, ben, aussi, ben j'arrivais d'être là quand je t'ai écrit, justement.
Non, mais tu sais, j'ai essayé de me mettre à ta place, parce que, tu sais, en plus, c'est comme, il y a tellement d'artistes qui ont passé par là que
ben,
tu vénères en partant.
Ben, c'est ça, puis tout, trois quarts des chansons qu'on connaît des années 50, soit d'Elvis, Johnny Cash, Jerry Lee Lewis, ça a été enregistré dans ce studio-là. Mais je savais pas à quoi m'attendre, tu sais. Je vais-tu arriver dans un musée? Je vais-tu arriver dans une place avec des plexiglas partout? Ben,
t'as sens-tu cette histoire-là quand t'arrives?
Ben, c'est sûr que.
Ça vient du torjoin.
Parce que dans le fond, puis premièrement, la Sun Record à Memphis, on arrive là, j'ai eu de la misère à le trouver. Là. C'est une petite bâtisse perdue à côté d'une grosse bâtisse. Et c'est, même avec le GPS, il a fallu revirer en rond pour trouver.
Voyons, j'aurais pensé que c'est plus qu'en évidence, là.
Non, ben, puis là, tu rentres en dedans dans une espèce de petit gift shop, puis là, ben, c'est 15$ pour faire la tournée. C'est pas si pire que ça. Fait qu'il commence par te faire comme.
Puis il cherche les affaires à 15$, ben, c'est ouais. Ça.
Fait que là, il commence par te monter comme au deuxième étage de la bâtisse. Là, ils ont fait un plus genre musée, un peu avec l'histoire de Sam Phillips, le gars qui avait le studio, un peu son histoire avant qu'il devienne producteur, tout ça. Puis là, t'as plein d'artefacts, puis les premiers enregistrements qui ont été faits là, début des années 50, puis tout ça. Puis après ça, le guide, il nous fait descendre les marches, puis il dit là, on va aller dans le studio d'enregistrement.
Le studio.
Où est-ce que le studio. Fait que moi, le groupe qu'on avait, c'était un groupe ben, qui visitait en même temps que moi. C'était un groupe qui était assez âgé. Fait que moi, j'ai descendu les marches avec mon père en premier. Puis les autres suivaient pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Fait que je suis rentré dans le studio, mais j'étais quasiment tout seul, là. Mais c'est là que j'ai pogné deux minutes. Mais là, j'ai pogné deux minutes, là. C'est les frissons pis tout, parce que je pensais soit arriver dans une espèce de musée où ben, tu peux pas rentrer dans le studio, tu vois un plexiglas, tout ça. Mais qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce que je savais pas puis que j'ai tout de suite senti en rentrant, c'est que le studio, il a jamais changé depuis les années 50. Il y a même pas une couche de peinture qui a été remise dedans.
Wow.
Parce que Sam Phillips, c'est ça, à la fin des années 50, il s'était mis à faire de l'argent, fait qu'il a upgradé, fait qu'il a déménagé ses studios dans des meilleures places et puis des meilleurs locales. Fait que ce local-là, il a juste fermé la porte, il a barré la porte.
Ah, ouais.
Puis ça a donné que ce local-là a jamais été reloué. Fait qu'il est resté...
Dans... Une chance du pas possible.
Fait qu'il est resté...
L'histoire est restée embarrée dans les portes.
Ben, les années 50 sont restées là, puis je pense que...
ça sent.
Ouais, puis ça a été jusqu'au début des années 80, avant qu'ils décident de finalement faire de quoi avec ce local-là, puis le rendre accessible aux gens, mais... T'es en dedans, puis tu vois toutes les tuiles sur les murs pour l'acoustique, c'est les tuiles des années 50, tu vois qu'il y en a qui sont maganées, puis tout ça, puis... Là, tu vois à terre, parce qu'à l'époque, les gens, tu sais, quand ils enregistraient, c'était live, finalement. Là, c'était pas de la take, commence par le drum, la bass, la guitare.
Non, c'est ça. C'était pas séquencé.
Fait que là, tu vois à terre encore les vieux tapes. Que, exemple, le contrebassiste, parce que c'était pas de la basse, c'est une grosse contrebasse.
Oui.
Il fallait qu'il se place là. Le guitariste, il est sur l'autre côté là-bas. Le chanteur, exemple, de ce côté-là. Fait que là, tu t'imagines Elvis à 18 ans en train de faire sa première take là.
C'est son petit bout de tape à terre.
Ben ouais, puis Johnny Cash. Puis c'est vraiment intéressant.
La console, es-tu là?
Oui, dans le fond, t'as le bout, t'as l'autre bout, tout est encore là. Puis même, il y a des gens qui peuvent le louer. Je pense que YouTube, ils ont été enregistrés quoi dans ce studio-là?
Tu parles d'un trip.
Ben, c'est sûr, c'est pas n'importe qui, j'imagine, qui loue cet endroit-là, mais c'est inchangé. Tu regardes les plafonds, les couleurs, les grosses trappes de ventilation, c'est tout date de 1950. Là. Mais c'est tu sens la vibe. Parce que moi, je l'ai senti, c'est peut-être moi qui est trop fan.
Qui est very sensible. Là. Ouais, non, t'es pas trop fan.
Puis là, en plus, tu vois même la fameuse photo du Million Dollar Quartet. T'sais, dans le fond, t'avais Carl Perkins, Johnny Cash, Elvis Presley, puis Jerry Lee Lewis, les quatre sont ensemble autour du piano. Mais ils ont mis la photo à côté du vrai piano qu'ils ont utilisé à la même place sur le mur. Puis là, le guide contait l'histoire que Sam Phillips était à la console cette journée-là. Puis c'était en 1958. Puis à cette époque-là, Elvis n'était plus sous contrat avec Sun Record. Il était rasé avec RCA. Fait que Sam l'a pas dit, mais il a enregistré qu'est-ce que les gars faisaient. Mais il avait pas le droit de le sortir vu qu'Elvis était en sous-contrat avec un autre. Fait que ça a sorti des années plus tard.
Mais pourquoi ils s'étaient réunis, ces quatre-là, une journée? C'est-tu par amitié?
C'était par amitié, c'est quatre bodés. C'est ça qu'ils disaient. C'était, tu sais, ça a l'air gros de même, dire que c'était.
Mais oui,
quatre...
c'est gros.
Mais c'était quatre amis qui se sont dit on va aller se péter un jam au petit Sound Studio où c'est qu'on a commencé.
Tu parles d'une réunion improbable. Tu vois, ça, j'aurais aimé ça parce que j'ai tellement aimé le film Elvis.
Ouais.
On pourra s'en jaser, là. que c'était les petits détails de même. Tu vois, j'aurais aimé ça, le voir, ce moment-là où les quatre sont ensemble. Parce qu'évidemment, la façon que l'histoire est racontée a énormément, énormément de charme. Ça nous rend Elvis tellement vivant. Ça enlève le côté vieillot qui aurait pu être attaché à
ben
son
ouais.
image. Ça nous montre toute sa rébellion aussi. Mais on n'a pas, tu sais, vu que c'est pas monté comme un documentaire, on n'a pas, mettons, ces moments-là qui sont arrivés là, précisément.
Ben, c'est ça. Puis la visite du studio, c'est impressionnant parce que, tu sais, tout est comme si c'est un endroit simple. Tu sais, moi, dans ma tête, c'est un endroit mythique. C'est le rock'n'roll est né là, dans cette pièce-là. Là. Mais tout est accessible. Puis même,
c'est beau quand c'est dit de même, hein?
Puis même, il y a un vieux micro chromé qui est là, que c'était lui que Elvis utilisait, Johnny Cash utilisait pour faire les takes. Puis c'est Sam Phillips, avant de mourir, il a dit ça, c'est mon micro préféré. Je vous le laisse pour le Sun Studio, mais à une condition, que vous le mettez pas en arrière d'une vitre, que le monde peut le prendre. Je prends la photo avec, puis...
C'est comme ça.
C'est comme ça. Le monde peut prendre une photo avec le micro.
Où ta photo avec le micro?
Je l'ai pas pris.
Parce qu'à ma somme, j'ai épluché tes photos à ma table. Je l'ai pas vu.
Je les ai pas toutes mis, mes photos de voyage.
J'imagine que tu as fait la tournée des grands bars. La grande tournée des grands ducs. On n'aura pas toutes les photos.
Aussi, on est descendu à Lynchburg pour la distillerie Jack Daniel.
Ça, c'est un classique, ça.
Oui, ben c'est ça.
Je m'imagine que c'est comme aller faire la Heineken Brewery quand t'étais à Amsterdam.
J'ai aucune idée, j'ai jamais fait.
Ça ressemble à quoi comme visite?
C'est super intéressant. Dans le fond, à partir de Nashville, c'est un heure et demie vers le sud. Puis on arrive à Lynchburg, au Tennessee, qui est un dry county. C'est un comté qui n'a pas le droit de vendre
personne
d'alcool.
Personne boit.
Il n'y a aucun alcool qui a le droit d'être vendu là-bas. Fait que
mais tu peux boire pareil.
Même au Jack Daniel, la distillery, dans le fond, tu as 2-3 tours que tu peux acheter différemment. Moi, j'ai pas pris lui avec dégustation, mais lui avec dégustation, ils ont le droit de faire déguster le monde parce que c'est éducationnel.
OK, ça prend un statut spécial pour boire.
Ouais.
Mon Dieu, tu parles d'une drôle de place. On sait-tu la raison pour laquelle ils ont décidé d'être dry?
C'est, dans le fond, à l'époque où est-ce que Jack a ouvert sa distillerie en 19...
On passe un rapport avec Jack en
non,
plus.
Non.
OK, non.
Ah non, c'est pas son idée, certain. Il est même mort avant que ça arrive. À l'époque, c'était un comté comme les autres, que les gens avaient le droit de boire et s'amuser, on va dire. Puis quand il est venu le temps de la prohibition aux États-Unis, début des années 20, ben là, toutes les États-Unis sont devenues dry, dans le fond. Puis quand la prohibition s'est arrêtée, ben ce comté-là a décidé de rester comme ça, plus puritain. Mais ça donne que la distillerie Jack Daniel est là, puis distribue à grandeur du monde.
Drôle de hasard. Heureux hasard, pareil.
Mais c'est ça, la visite, c'est super intéressant parce que, tu sais, Jack Daniel, tout le monde connaît ça avec toutes les vedettes qu'on voyait, slash n'importe qui, Jimmy Page. Tout le monde avait tout le temps sa bouteille de Jack, Lemmy, Jim Morrison. Puis ça, c'est vendu à grandeur de la planète. Puis je m'étais dit, je vais arriver d'une place, une grosse usine.
C'est vrai que c'est la photo classique, hein, ouais. Avec de toutes ces bombes-là, avec le Jack, là.
Fait que là, je m'étais dit, je vais arriver d'une place, ça va être... ça va être moderne, on va dire, ou bien gros. Mais pas en tout, c'est des installations. C'est le whisky est fait vraiment, vraiment comme M. Jack le faisait dans le temps, mais à un peu plus grosse échelle. Mais l'usine n'a pas upgradé depuis les années 50. La chose la plus moderne qu'il y a là-bas date des années 50, tu sais. Fait que...
T'as encore vintage ton affaire. Il me semble que le secret de l'eau, c'est l'eau. Il me semble qu'il
ouais, dit... Ouais, il y a l'eau. Ben, dans le fond, il y a...
La qualité de l'eau.
Ouais, là, ben, c'est ça. Ben, je l'ai vu, la source. On commence par là, la visite. Ils vont nous montrer la source qui coule dans le roc, dans les rochers que M. Jack Daniel avait acheté. Je pense qu'il avait 13 ans à l'époque. Puis, il a ouvert sa distillerie.
Il a choisi cette place-là, je pense, pour la source.
Ouais.
C'est-tu?
Ouais, parce que la guide nous a expliqué que cette eau-là, quand elle passe dans tel type de roche, ça enlève le fer de l'eau. Puis pour faire du whisky, du bon whisky, ben si ton eau est ferreuse, ton whisky va devenir plus noir. Fait que là, dans le fond, c'était filtré naturellement. Fait que c'est de l'eau puff. Et c'est toujours la même eau, c'est de la même source qu'ils prennent pour faire le whisky. Puis, truc que je ne savais pas, c'est la différence entre un whisky et un bourbon, tu sais quoi?
Ben, je savais même pas, premièrement, que c'était essentiellement de la même, tu sais, dans le fond, de la même souche.
Ouais, c'est
un
ça.
Un et l'autre.
C'est que le whisky est filtré au charbon de bois. Fait que après la distillation, dans le fond, les gouttes d'alcool tombent dans une grosse cuve en bois qui est à peu près 15 pieds de haut. Fait que goutte par goutte, va passer au travers de plein de grumeaux de charbon de bois. Ça prend 2 jours à la goutte à traverser le baril pour se rendre jusqu'en bas. Et le charbon de bois est fait sur place. C'est leur propre charbon de bois. Au début, quand je suis arrivé là, je voyais des grosses piles comme des palettes d'érable, mais finalement, les autres s'en servent pour faire leur propre charbon.
Et ça, c'est ça qui donne le goût particulier.
Ouais, c'est ça. Puis c'est filtré, puis tout ça. Puis après ça, c'est mis en baril. C'est mis en baril, puis les barils, dans le fond, ils les font vieillir entre 4 et 7 ans, tout dépendant, parce qu'il n'y en a pas un qui vieillit pareil. Puis ça, c'est entreposé dans des cabanes. Ça aussi, c'est impressionnant. C'est des cabanes, c'est des vieilles cabanes, dans le fond, de 7 étages de haut. En dedans, il y a 7 étages de barils. Puis il y a plein de petits clapets chaque bord pour faire passer l'air, tout ça, pour que ça soit bien aéré. Puis il y a 20 000 barils par cabane.
Ben non, mais faut les alimenter, tout ces rocheurs-là qui sont là.
Attends un peu. Le terrain de la distillerie mesure 5 000 carrés. Ça fait que c'est un bon bout de terrain. Fait qu'il y a 20 000 barils par cabane. Mais il y a 93 cabanes sur le terrain.
Mais c'est le seul endroit au monde où on le produit,
ben oui,
si je comprends. Là.
Mais tu verrais les installations, ben, c'est gros, mais pas... Tu sais, c'est encore à l'ancienne, puis ça changera pas, d'après moi, mais c'est ça. Ils en produisent comme ils peuvent en produire, puis ils stockent ça, puis après ça, au bout de 4 ans, il y a un goûteur qui va voir si le baril est plein, est prêt, s'il est pas prêt, ben, ce batch-là va attendre.
Au bout de combien de temps, tu m'as dit?
Au bout de 4 ans, il commence à les vérifier, voir.
Mais quand t'as écrit, tu sais, il y a les variantes. Là,
mais ça peut aller jusqu'à 7 ans. C'est entre 4 et 7 ans.
C'est ça. Je me souviens pas les variantes, là, parce que je parle pas de ceux au cannelle puis tout, là, mais tu sais, t'as le bleu, me semble.
Ouais, ben ça dépend. C'est comme exemple, le Gentleman Jack. Exemple, ils nous ont expliqué. Parce que tout part de la même base. Tu sais, t'as pas 1000 alambics pour 1000 sortes de Jack. C'est toute la même base. C'est orge avec maïs qui fermente dans des grosses cuves, puis tu rentres là-dedans, puis. Ça sent le Jack, là. T'sais, même quand t'es dehors, la fabrique, ça sent le Jack.
Ah, yes, yes!
fait que c'est ça.
Fait que tout part pareil, ouais, c'est le vieillissement.
Ouais, puis exemple, un Gentleman Jack, exemple, c'est quand le Jack est prêt, au lieu d'être mis en bouteille puis de faire un Jack normal, mais il le repasse dans le filtre au charbon une deuxième fois. Fait que ça l'adoucit au goût puis à couleur. Ou bien le single barrel, exemple, ça vient de un baril. Fait que là, quand t'achètes une bouteille de single barrel, t'as le numéro du baril dans lequel il a été. Puis souvent, ces barils-là, c'est les barils qu'ils mettent au 7e étage pour qu'ils vieillissent mieux. Parce que les restants, quand tu prends un Jack normal, il n'y a pas un baril qui va goûter exactement pareil. Fait qu'ils font comme un blend pour uniformiser ça. C'est comme un peu, ils font des fois que je suis sirop d'érable, là.
Comme la fédération, quand ils mélangent tout.
Ben,
là.
C'est ça, ça. Fait que ça, c'est pour faire du Jack normal, mais le single barrel que tu n'achètes un aujourd'hui, que tu vas aller en acheter un d'un autre baril, tu vas avoir une petite différence de goût parce que lui, c'est vraiment du Jack qui vient d'un baril qui n'a pas été mélangé. Mais tu vas le payer plus cher.
T'en as-tu ramené?
Non, ben c'est ça.
T'es-tu payé des petits cadeaux?
Ben là-bas, ben c'est ça. Ben, on est allé un peu en pauvre avec des. Parce que de ce temps-là, ils perdent les valises. Hein, fait qu'on...
tu m'en parles. Je voyage toujours en pauvre.
Fait qu'on est allé sans carry-on. Mais moi, j'ai pas repensé à ça. Les carry-on dans l'avion, tu peux pas traîner du liquide.
Attends, t'avais pas de valise, dans le fond. T'avais juste des bagages à main.
Ouais.
4 paires de bobettes, genre. Ouais. Bon voyage, père-fils.
Puis une affaire, j'ai appris.
Qu'est-ce que t'as pris ton carry-on?
Non, ben, à l'usine Jack Daniels, au début, on commence, puis on voit comme la petite maison que Jack avait en 1800, quelque chose. Puis là, la guide a dit, là, t'as comme un coffre-fort à terre, puis là, elle dit, ça, c'est la raison pourquoi que M. Jack est décédé. C'est un gros coffre-fort. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé un matin, puis c'était pas lui qui s'occupait vraiment des finances, puis là, il avait besoin d'aller dans le coffre-fort. Puis il se rappelait plus à combine, puis il a pogné une heure, puis il a kické le coffre-fort, puis il s'est cassé à gros orteil.
OK. Fait que ça là, s'est pas infecté.
Ben là, ouais,
pas
ben,
une niaiserie de même.
Là, on était dans le début des années 1900. On était comme en 1907. Fait que là, ça s'est infecté. Il a été obligé de faire couper l'orteil. Après ça, il s'est fait couper le pied. Puis quelques années plus tard, en 1911, il est mort d'un empoisonnement du sang des suites de ce truc-là qu'il avait oublié la combine de son coffre.
Là-dedans, là.
Ouais, ben, prends ton gaz égal, ça va bien aller.
Ouais, puis on kick pas pour rien.
Non.
Mais tu parles d'une drôle d'histoire.
Ouais, je la savais pas, celle-là, mais moi, j'ai vu.
C'est une longue souffrance, en plus, là.
Ouais, ouais. Puis je l'ai vu, parce que j'ai vu le coffre-fort.
Fait que là, le coffre-fort est là.
Il est là encore.
Coffre-fort, évidemment, a survécu, lui. Pierre, pendant ta guette un peu, qu'on l'entende un brin. Fait que là, finalement, ce que je comprends, c'est que t'as rien ramené de souvenirs, sinon des affaires que tu vas pouvoir te compter que ton père en vieillissant, quand vous allez vous barcer.
Une coupe de linge, là, puis j'ai une petite affaire pour toi tantôt que mon père a pensé à t'acheter.
Ouais, ton père, ouais. Il a bien fait. Qu'est-ce que tu vas nous faire?
Ben, une petite intro de quelque chose, là. On va voir.
Installe-toi.
Qu'est-ce que ça rapporte?
On est avec Pierre Blais. Joli à chaque fois. C'est tellement vrai d'avoir amené ta guitare.
Tennessee Flat Top Box.
Absolument, absolument. Pauvre Johnny. Je regrette encore qu'on ne se soit pas croisé, tu comprends-tu? Parce que dans le fond, on aurait pu. Ça fait pas si longtemps que ça qu'il a quitté.
Une vingtaine d'années. Maintenant, je pense en 2003, je me rappelle.
Tu vois, il est quand même venu te faire des tours dans le bout de
site. À Saint-Tite, je pense qu'il est
puis
déjà
même,
venu.
Il est allé en Abitibi. Peux-tu croire?
En Abitibi, oui.
Il existe un documentaire de Johnny Cash en Abitibi. Tu sais, que tu parles d'un cadeau, là, toi. Là, tu sais, il n'arrive jamais rien en Abitibi. T'as coup, t'as Johnny Cash qui débarque dans la place. Mais tu sais, en tout cas, je trouve que c'est des occasions, mais tu sais, à côté desquelles il ne faut pas passer. Tu sais, c'est des restes de nos idoles. Tu sais, comme Johnny Cash, dans ma jeunesse, j'aurais dû penser un jour à
aller
faire
le voir,
puis aller le voir pendant que c'était possible. Tu sais.
Mais en même temps, on ne pouvait pas le savoir. Mais puis il est comme. Puis il est comme parti quand ça commençait à revenir, sa carrière.
Sa carrière, ouais, absolument.
Parce qu'il y a eu un grand bout que c'est ça. Il faisait les bars avec June, puis se promenait dans son Winnebago, puis il faisait des salles à 50 personnes, un bout, là.
C'est ça. Non, mais c'est dû probablement que son voyage en Abitibi, c'est quasiment un bout de même.
Ben,
là.
C'est ça.
Tu sais, mais c'est étonnant. En tout cas, je me fais une réflexion à moi-même, là, que c'est comme si, mettons, Ozzy, il repasse, on y retourne. Si, tu sais, on passe plus à côté d'aucune de ces occasions-là, là, mm-hmm. Tu sais, parce que tu sais jamais quand est-ce que ça finit beaucoup trop abruptement, tu sais, des fois,
ouais.
Tu sais. Puis je repense à Elvis, parce que là, j'ai le film en tête, parce que je l'ai vu il y a
j'ai pas
si longtemps.
J'ai pas encore vu le film, moi.
Ah, c'est pour ça. Bon, je pas à t'en dire trop, mais tu vas être enchanté.
Mais c'est où qu'on le voit, ce film-là?
Moi, je l'ai écouté sur Crave.
OK, moi, j'ai pas ça. Moi.
Je vais te trouver une façon, OK? Parce qu'il n'a pas été en salle si longtemps. J'étais comme un peu abasourdi de voir. C'est sûr que tu as un de tes chums que Crave, ça vient souvent avec les abonnements là, de TV.
Ouais, mais ben, limite, Crave, je peux m'abonner juste.
En bombe, comme moi, je fais. Mettons, tu prends ta semaine gratuite.
Après ça, t'arrêtes.
Puis après ça, t'arrêtes.
Ah, ben c'est sûr, je m'en fais. Okay. En plus, on a une fin de semaine de trois jours.
Ça, c'est comme voyager avec tes quatre bobettes, OK? Ça marche pareil. T'as même un encore plus beau voyage. Je vais dire ce que j'ai particulièrement aimé du film, ça m'a touché, là. J'ai braillé comme un bébé, OK? Faut dire que je suis une fan finie d'Elvis comme toi, OK? C'est comme j'étais chanceuse, moi, dans ma gang d'enfance, j'avais Mike Lemieux, il interprétait du Elvis comme son père, Ertel, en avait fait. Il y avait une orchestre, puis il chantait du Elvis. Fait que là, c'était comme moi, en plus, c'était comme vivant dans ma vie, là, tu sais. Mais là, quand j'ai vu le film, pour avoir, tu sais, puis, tu sais, j'écouterais pas des vieux films d'Elvis, là,
ouais,
tu sais,
ouais,
c'était pas du grand cinéma.
En 1963, qui se boit avec n'importe qui.
Non, puis pourtant, j'en écoute des vieux films. Mais ça c'est pas ça, tu sais, que j'aime d'Elvis.
On comprends-tu? Dit cinéma gomme ballon.
C'est un peu gomme ballon. Apparemment, le colonel Parker, il avait fait ça pour lui fermer la trappe. Il y a beaucoup d'affaires que le colonel colonel Parker a fait finalement pour le garder prisonnier, tu sais, Elvis, à la fin de ses jours, finalement, tu sais, c'est parce qu'il est malheureux, là, qu'il se laisse sombrer comme ça, tu sais, c'est parce qu'il n'a plus Priscilla, puis c'est parce que finalement, il n'a pas pu l'avoir, sa carrière. Il a eu une carrière internationale parce que le colonel Parker, il a fait accroire avec le premier show satellite où des milliards de personnes l'ont écouté, puis tout. Mais tout ça, c'est parce qu'il ne voulait pas qu'il quitte les États-Unis parce qu'il l'avait gardé prisonnier d'un hôtel.
Ouais, parce qu'Elvis n'est jamais sorti des States. Là.
À cause du colonel, il faisait des peurs. Il faisait peur pour sa sécurité. Puis il jouait sur ses sentiments. Il a toujours joué sur ses sentiments. C'était un homme, là, est-ce qu'il était tordu. Puis il avait d'énormes dettes. Puis c'est un peu ça. Il repayait ses dettes avec Elvis. Je t'en dis pas trop. Juste te dire que pour la signature du film, c'est, je t'avertis, là, tu vas être étonné, là, OK? Puis c'est surprenant parce que de la manière que c'est présenté, c'est un peu d'un esprit de cirque. C'est comme je te dirais, là, c'est vraiment, c'est éclatant, là, pour les yeux, puis tout. Puis de la manière que c'est présenté, c'est que on rattache toujours Elvis à la musique des Noirs d'avant.
Ouais.
Tu sais, parce qu'Elvis, c'est ça. Elvis, il a pris la musique des Noirs, puis tu sais, il était le premier blanc à l'amener, tu sais. Ça, c'est pour ça que ça a fait tant de vagues, tant de réactions, tout ça. Fait qu'on utilise la musique des Noirs, c'est présenté de façon tellement vivante, puis on te la ramène des fois dans la musique d'Astor. Rien que te dire au générique, c'est The King and I d'Eminem. Fait que tu sais, tu comprends-tu? Ouais, c'est ouais. Comme on te place l'importance d'Elvis.
Pour se rendre à aujourd'hui.
Exact. Puis ça, c'est vraiment génial parce que les jeunes d'aujourd'hui, tu sais, pour eux autres, Elvis, c'est un personnage qui était figé dans le temps, tu sais, c'est un poster, puis c'est trop vieillot, tandis que là, de la manière que c'est présenté, ça rattache ce qui est venu avant lui, puis tout ce que ça va ramener grâce à lui. C'est tellement bon, là. Puis ce que j'ai apprécié beaucoup, c'est qu'on oublie souvent à quel point c'était un rebelle, puis qu'il a tenu son bout de pareil. Tu sais, des fois, il a voulu se faire imposer des affaires, tout ce qui était les mouvements du bassin, ses paroles, c'est tout, puis il a tenu son bout envers et contre tous, peu importe les conséquences de ça, tu sais. Ça fait que, oui, Pierre, en fin de semaine, tu t'abonnes à Crave.
En pauvre.
juste pour Elvis, gars, j'en ai les larmes aux yeux juste d'y repenser. J'ai passé un moment extraordinaire. Faut dire que Tom Hanks en colonel Parker est fantastique, là, mais c'est une façon de raconter l'histoire qui est étonnante, qui est rare en plus. C'est vivant, puis tu vas voir Elvis autrement. Puis sans tricher sur la réalité, c'est ça que je suis sûre de ça. C'est qu'en plus, je pense qu'au contraire, ça va m'avoir rapproché de lui encore plus.
C'est pas juste inspiré de... C'est,
pas juste il vous raconte de les ça. Faits. Puis tu sais, c'est sûr que l'acteur qui est choisi, moi je le connaissais pas, il a des vraies belles lèvres en pétales de rose comme Elvis, mais c'est pas une copie collée à tête coupée d'Elvis.
OK.
C'est pas ça qui était important.
Ils ont pas cherché le sosie.
Non, ils ont cherché plutôt à avoir quelqu'un qui avait un charme fou comme lui. C'est pour ça que le film est une réussite, tant qu'à moi aussi...
Le charisme de
tout ça. Pierre, on voudrait souligner quand même tes bosses, parce que quand t'es arrivé, je t'ai dit, j'ai pas vu ton troc lettré dans le cours. Distribution d'Anel, j'ai souligné tantôt que t'étais du marché Fleury. C'est pas évident de partir d'une business familiale où tout le monde t'aime, puis être sûr d'être heureux dans ta carrière d'après. Ces gens-là te rendent heureux, on lui dit-tu bonjour?
Bonjour à Martin. Martin et Nadine, mes patrons.
Je regrette pas t'avoir dit de m'amener vos épices, là, qui sont comme... tu sais, j'en ai plusieurs de vos assaisonnements, mais il y en a un que j'ai mangé au doigt, là. Je mouillais mon doigt, puis je mangeais les épices. J'ai passé au travers du pot de même, quasiment, là. C'est celui qui est comme un assaisonnement pour toutes, là.
De tout usage.
Mon Dieu, que c'était bon. Je te maudis pas ce qu'ils mettent là-dedans, là.
Même pour te gruger les ongles. C'est quoi, t'es... Ben, de même, le passe-temps. Tu...
J'aurais saucisse ça coup, dans je n'importe ramène... quoi. Si se boira à paille, je le ferais.
Le prochain coup, je te ramène un kit de quelque chose.
Oh là là, un kit de quelque chose. Bon, ben aujourd'hui, on a tout un kit, je vais te dire. Là. On a Pierre qui est avec nous autres. On a Guillaume avec toute sa douceur puis tous ses bons choix musicaux pour pallier au fait qu'on est arrivé une demi-heure en retard en ondes. On a aussi des invités de marque. Fait qu'après, on va aller se promener au Tennessee. On va se faire une petite pause, puis au retour, on va aller rejoindre Bob le chef. Puis là, on va traverser la
He got fighting mad, this rebel lad. He packed no star as he wandered far, where the only law was a hook and a draw, the rebel.
L'allée Mon Quartier sur le site de La Ruche.
CJMD 96.9 Lévis.
L'alternative radio. La recette qui lève. Pas besoin de pilule. rebel.
Oh yeah! Faut que ça groove! Notre prochain invité, lui, groove tout le temps. All around the world! On pourrait dire Bob l'International. Ben, on le connaît plus sous le titre de Bob le chef. Salut, Bob!
Salut, Marie! Comment ça va?
Hey, ça va tellement bien! C'est un show de brousse, j'avouerais, ici, aujourd'hui. Là. Personne, aucun de mes invités, pas même l'animatrice, on arrive à passer le pont. Je peux te dire une affaire, mes invités, je vais les chérir ici, aujourd'hui. Là. Hey, mais toi tu viens virer à Québec quand même assez souvent de cet incite, j'ai remarqué.
Ben oui, mon fils est rendu en banlieue de Québec, fait que je viens le chercher quasiment à tous les vendredis, puis sinon... Ben écoute, ma belle famille, ma belle-mère habite à Québec, ma belle-sœur habite à Québec, fait que on visite quand même pas mal souvent. Puis le travail aussi m'a amené à Québec là, à quelques reprises dans les derniers mois, fait que c'est tout le temps un plaisir. Tu sais comment je suis un fan de la vieille capitale.
C'est comme c'est un amour réciproque à bord de ça. Hey, j'ai pas pu résister aujourd'hui, c'est la promo de l'émission. J'ai pris une photo de toi avec ton fils Elvis, OK? Puis juste avant qu'on fasse la pause, j'ai fait une petite critique du film d'Elvis que j'ai vraiment trippé. Toi, là, qui est la seule personne que je connais qui a eu le chic, l'audace d'appeler son enfant Elvis, ça te remue-tu souvent le fait que ton fils s'appelle Elvis? Ça vient-tu te chercher de différentes façons?
Ben écoute, c'est très drôle, hein? Quand on attendait Elvis puis on disait aux gens comment on était pour appeler notre fils, la mère, mon fils, puis moi, tout le monde pensait qu'on était complètement fous. Puis ceux qui connaissent mon garçon comprennent, c'est un vrai petit Elvis, pour vrai, là. Il porte très, très bien son nom, pour vrai. C'est lui-même, là. D'ailleurs, c'est drôle, tu dis ça parce que on veut écouter le film en fin de semaine, là. Tu sais, il est rendu à 12 ans. Ça l'allume, savoir ça vient d'où, ce nom-là.
Ah non, mais écoute, puis je viens de le recommander à Pierre. On s'est entendu. Pierre, c'est quoi ton plan?
Moi, c'est de m'abonner en pauvre sur Crave TV pour une semaine.
Puis après ça, se désabonner, ouais. OK? Juste pour écouter le film Elvis. Mais c'est tellement de la manière qu'il nous le présente, là, Bob. Là, c'est comme pour ton fils de 12 ans, il n'y aura pas le choix de tomber sous le charme de son prénom puis de l'homme qui a fait que maintenant, c'est le pseudonyme qu'il a, là, tu sais. Mais ton fils, c'était comme la meilleure incarnation qu'il ne pouvait pas y avoir d'un Elvis. Dans le fond, c'est une chance que personne d'autre appelle son fils comme ça parce que le tien, il est déjà unique en soi, tu sais.
Ben, effectivement, puis ceux qui connaissent mon ex-femme savaient à l'époque qu'on n'était pas pour appeler notre enfant Martin ou Stéphane. Rien contre ce nom-là, mais on était un peu plus flyés à l'époque, fait que Elvis se fut.
Ben, je vais te dire que tu manques pas d'élan encore aujourd'hui, là, OK? On va se faire une petite virée tranquillement, pas vite, de tout ce qui se passe dans ta vie. J'ai-tu bien saisi, parce que j'ai pas écouté la cérémonie, là, étais-tu en nomination au prix Gémeaux, hein?
Hey, oui,
wow.
Première fois de ma vie que j'étais en nomination au prix Gémeaux.
Enfin.
Avant, je n'animais pas des shows de TV, puis maintenant, j'en anime. Mais non, c'est vraiment très, très touchant d'être nominé. J'étais là, d'être nommé seulement. J'étais dans deux catégories. Pour un magazine culturel avec mon émission Arrive en campagne, où j'ai perdu contre Christian Curieux-Bégin. Quand même, tu sais, c'est perdre contre des grandes chausseurs, là. Fait que c'est déjà d'être nommé, c'est très touchant. Et 3-2-1 barbecue. 3-2-1 barbecue, je ne savais pas, mais on considère ça une télé-réalité. Écoute, j'ai perdu contre le roi des télé-réalités, Jay du Temple. Écoute, moi-même.
Mais voyons!
J'aurais voté pour Jay du Temple, Capitaine Twist. Oui, je
trippe
dessus.
Hey, mais c'est hot, pareil. Tes deux shows ont été nommés.
Oui, oui. Puis il faut comprendre.
Bravo.
Les producteurs, c'est eux qui soumettent au balotage des émissions. Mais dans une catégorie comme télé-réalité ou magazine culturel, il y a en moyenne entre 40 et 50 shows de soumis. Donc, déjà, là, d'être dans les top 5 finalistes sur 40 quelque shows. C'est très, très touchant. Là. C'est un bel hommage.
Oui, mais en même temps, vous ne l'avez pas volé. Tes deux émissions sont extraordinaires. Comment ça finit la fin de saison pour Arrive en campagne?
Bien, Arrive en campagne, en fait, on tourne tout le temps une saison à l'avance. Donc, ce que je viens de terminer cette semaine, Vous allez le voir l'été prochain, puis au printemps prochain. Puis on a vraiment une belle saison. On fait de l'huile de tournesol, on fait du vin, on visite une porcherie qui a vraiment le bien-être de l'animal, des employés à cœur. On visite des vaches laitières. Moi, les vaches laitières, c'est mes préférées. L'incarnation existe. Moi, je vais être une vache laitière. Ils sont brossés, dorlotés. Ils sont pas mal mieux que ce qu'on... qu'on peut croire. Écoute, j'ai visité des poussins, j'ai visité un élevage de bœuf, des melons d'eau, du radis. Écoute, c'est vraiment... Moi, en plus, tu le sais, je suis un vrai gars de ville. C'est tellement trippant pour moi de voir les agriculteurs et agricultrices du Québec à l'œuvre. Puis on a de quoi être fiers au Québec parce que on fait de l'agriculture. C'est un marché. On veut que les agriculteurs et agricultrices veulent faire de l'argent. Mais c'est des passionnés de ce qu'ils font et ils le font avec soin et minutie. Puis c'est vraiment, là, moi, je suis fier, justement, là, d'être un peu le porte-parole de tout ça là, et de faire refléter ces gens-là au petit écran.
Oui, mais je vais te dire, c'est un bon échange de procédés parce qu'en plus de ça, c'est comme, non seulement, oui, le Montréalais apprend sur la vie de campagne beaucoup, OK, mais en plus, tu découvres des produits, puis tu sais, dans tes recettes que tu présentes à l'écran, puis quand tu, justement, vous avez comme votre moment là, humain où tout le monde se réunit puis que tu le fais goûter quelque chose, on voit que toi aussi, c'est comme cuisinier, ça te fait avancer.
Ben, c'est sûr qu'en temps, tu sais, j'ai été dans des cuisines professionnelles pendant 25 années de temps. Fait que de vraiment reconnecter, voir un retour aux sources, de voir d'où ça vient la nourriture, voir le travail fort là, qui se fait dans tout ça. On a visité une fromagerie bio au lac Saint-Jean cet été et c'est absolument capoté. Les gens sont debout à 4 heures du matin puis ils n'arrêtent pas jusqu'à 7 heures le soir. Puis c'est des passionnés, ils adorent leur boulot. Puis c'est vraiment cool là, de rencontrer tous ces gens-là.
Bon, fait que finalement, arrive en campagne, on est déjà confirmé pour une autre saison, là, si le tournage, dans le fond, est fini pour l'année prochaine.
Oui, 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 ça va être sur les ondes de TVA là, dès le printemps.
Bon, puis parle-moi donc un peu de toi et ton chumé Hugo Girard. Tu sais qui c'est, il a ouvert une boutique ici à Lévis, Hugo Strong?
Oui, bien Hugo, écoute, je vais en profiter pas une pub pour mon chum Hugo.
On va être dedans,
c'est le fun de travailler avec Hugo. On est vraiment devenus des chums dans la vie. Nos blondes se connaissent. Justement, là, ceux qui sont en région de Québec, là, je fais une petite plug pour mon ami. Si vous êtes travailleur de la construction, il a vraiment parti sa gamme de vêtements de construction. C'est vraiment des beaux vêtements de qualité. Même si vous n'êtes pas en construction, il y a des belles pièces pour vrai. Là. Moi-même, j'ai une de ces vestes carottées que j'apprécie énormément, là, surtout là que l'automne commence. Puis tu sais, c'est tellement un gars qui a le cœur sa main, Hugo. Il faut le pogner après son premier café le matin. Hein? avant son premier café, puis je le trouve grognon un peu. Mais non, blague à part, pour vrai, c'est tellement un gars sympathique. Justement, là, j'ai amené mon fils. On en parlait plutôt d'Elvis. J'ai amené Elvis beaucoup sur des plateaux de tournage. Il est rendu à 12 ans. Ça l'intéresse beaucoup. Voir là, qu'est-ce qui se passe. Caméraman, preneur de son... Il faisait un peu de tout sur le plateau. Puis Hugo, c'est juste le meilleur gars. Je veux dire, mon fils, il va se rappeler le plus de son été 2022. C'est sa raide de char dans le Dodge Challenger à Hugo. Ça, il a vraiment trippé, pour vrai.
Ben, j'imagine qu'une grosse bête de même d'un Dodge Challenger, ça doit être un bon match.
Oui, oui, l'auto, il va très, très bien.
Ben, puis je veux juste en rajouter sur ses vêtements, parce que j'ai vu la collection, j'avais à écrire la publicité pour la station ici, là. Puis tu sais, c'est surprenant, parce que tu sais, oui, construction, mais bien au-delà, là, comme tu dis, là, quelqu'un qui est dans le jardinage ou qui aime juste jouer dehors ou faire du sport, c'est comme européen, c'est surprenant, un peu la coupe, puis tout, c'est bien fait.
Matériaux de qualité, là, c'est vraiment, ben c'est à l'image d'Hugo, c'est fait tough.
le jeu de mots est facile. Je l'ai mis dans la pub, tu veux? Hey, Bob, juste parce que tu me dis que tu as fait une grande virée avec Elvis, je remarque, puis Pierre, ici, à mes côtés, fait souvent des virées et tout, ce qui va aller manger une poutine, OK? T'en manges beaucoup, des poutines, toi, Bob, là?
Hey, le monde, il pense que j'en mange plus que... Il y avait une époque que j'en mangeais beaucoup. Moi, je dirais j'en mange une par mois.
Il me semble que c'est pas ça qu'on voit sur Facebook passer.
Ben, check les dates, pour vrai.
OK, il me semble...
Je sais pas par mois. Ben, garde, justement, là, c'est très drôle parce que je m'en viens vers Québec chercher mon garçon en ce moment. Puis je suis à 138, puis je pensais arrêter dans le coin de Lanoraie. Une de mes cantines préférées chez Cocotte, puis c'est fermé depuis le 5 septembre. Je suis super déçu. Je suis stationné en ce moment, d'ailleurs, dans le parking.
Ouais, ben là, c'est le difficile passage où ce que les cantines y ferment, justement. Là, c'est comme on s'enferme dans l'hiver, puis là, on va être privé de bien des types de poutine. J'ai envie de vous demander à tous les deux, autant à toi et Pierre qui faisait la virée aussi, qu'à toi, Bob, c'est quoi les qualités premières d'une excellente poutine? Parce que moi, ils me ravissent pas toutes, là. Des fois, je trouve que la patate est trop grosse.
Ben, écoute, moi, c'est le fromage. Tout part du fromage. Tu veux que le fromage soit température pièce. Tu veux pas qu'il sorte du frigo.
Non, ça, c'est mortel, le frigo.
Non, absolument. Puis à partir de là, moi, je suis relax. Je préfère la sauce barbecue à la sauce brune. Puis étonnamment, à Montréal, il y a beaucoup plus d'endroits qui font la fameuse sauce hot chicken que la sauce barbecue. Fait que je préfère la poutine de région à la poutine montréalaise, ça c'est certain. Par la suite, moi j'aime les deux types de frites. J'aime la frite croustillante, quasiment croquante, mais j'accepte la graisseuse, là. Tu sais, moi j'ai de Montréal-Est, puis on allait chez Vincent Souparin les vendredis soirs. Il fallait tu cours jusque chez vous avec ton sac de frites. Parce que le gras passait au travail, tu sais, tes frites, ils risquaient de se ramasser sur le trottoir. Fait que, c'est une bonne graisseuse dans l'huile, un peu de frotté, là. Ça a son charme, pour vrai. Ceci étant dit, OK, si la sauce est assez bonne et le fromage est frais, je suis même prêt à accepter de la frite congelée. C'est pas l'idéal, là, OK? Lancez-moi pas des pierres, tout le monde. Mais la frite, dans la sainte trinité des ingrédients, selon moi, moi, en ordre, c'est le fromage après la sauce, après la patate. C'est une bonne sauce.
Hey, mais... j'ai rarement intellectualisé ça de même. Pierre, t'es-tu d'accord avec ça?
Oui, mais tu sais, en même temps, c'est quand même mettre base à trois ingrédients. Fait que moi, j'opte pour des trois bons ingrédients. Là. Puis moi, tantôt, on parlait de frites, je préfère la croustillante à la petite molle. Là.
Mais écoute, Pierre, je suis d'accord avec toi. Quand t'as juste trois ingrédients à gérer, t'es tout spin de bien les faire.
Ben, c'est ça.
En tout cas, moi, je veux vous dire qu'une affaire que je trouve qui est de plus en plus rare, c'est la patate coupée à la main, là, tu sais.
Ah oui, ça, on perd de plus en plus. Une place que j'aime bien à Québec, ça faisait longtemps que je n'étais pas allé, puis je suis allé il n'y a pas longtemps, c'est le Snack Bar Saint-Jean. Ça, c'est un petit endroit là, que je trouve vraiment le fun. En tout cas, il fait un mot du bon cheeseburger au Snack Bar Saint-Jean. Là. Je sais pas si j'ai le droit d'être plugué.
Ben oui, certain. Il a le goût d'en manger un la minute que t'en parles.
écoute, il y a tellement des bonnes places partout dans la belle province là, qui fait des bonnes poutines. J'ai un petit faible aussi, si on n'est pas parlé poutine. J'ai la chance de me promener beaucoup dans la belle province. Puis tout ce qui se fait dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, parce qu'ils ont accès, ils ont, tu sais, c'est Saint-Laurent, c'est Boisvin, le fromage, il est frais, il est fait là. Il y a des places, le fromage, il a été fait une heure avant d'être à poutine. C'est dur à battre, là, en guise de fraîcheur.
Je vais te dire, on s'est pas parlé du topping, mais j'ai eu l'occasion, moi, je fais des photographies de troc, là, puis j'ai eu à aller en photographier un passé Rimouski. Puis là, à force de jaser avec le monde, je me suis rendu compte que rendu dans ce coin-là, il y a comme une genre de compétition de qui monte jusqu'à la péninsule gaspésienne pour la meilleure poutine aux crevettes. Tu as déjà entendu parler de ça?
Maudit, là, j'ai pas le nom, la cantine de Sainte-Flavie, il faut le
dire. Mais c'est là que je suis allé, imagine-toi donc. J'ai donc mangé la meilleure poutine aux crevettes, là.
Ça, pour vrai, écoute, j'ai des frissons en ce moment. écoute, je suis allé deux fois dans ma vie et une de ces fois-là, je te le jure, je suis vraiment parti en charge. J'ai fait le 7 heures de route de chez nous. J'ai dormi au motel deux soirs. J'ai mangé celle au homard aussi, elle est à se jeter par terre. En fait, il faut que tu manges cette poutine-là assis. Parce que si tu manges debout, les genoux, ils te lâchent. Okay? T'as comme un orgasme là, dans le bas du corps. Il y a quelque chose qui se passe. Ça vaut vraiment le détour. Là. C'est de la Moses de bonne.
Mais ça m'a surpris parce que finalement, la crevette est froide là-dessus.
Mais écoute, les cuisiniers, on aime ça travailler avec les textures. Le croustillant, le mollasse, le chaud, le froid. Fait que il y a quelque chose de très intéressant là, dans tout ça. Moi,
bon, ben là, traversons l'Atlantique parce que t'as fait un beau voyage avec ta douce Victoria, OK? Vous êtes allé, je sais que t'es allé dans le coin d'Avignon, je sais pas jusqu'à quel point t'as voyagé en France, là, ni la raison du périple, c'était-tu juste une sortie en amoureux? C'est-tu votre lune de miel en avance, dans le fond?
Non, hein? Notre lune de miel, ça va être au mois de novembre. Mais écoute, je suis vraiment chanceux de sortir avec Victoria parce que sa carrière va très, très bien en France et j'ai la chance de l'accompagner tout simplement. Elle était là pour un festival de vidéastes. Donc, tout ce qui a rapport là avec que ce soit YouTuber, TikToker, cinéaste, gens de la télévision. Donc, ça s'appelait le Festival Frames et bien sûr, en France, hein, ça a un nom anglais. Donc, le Frames Festival.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Et écoute, j'ai été invité. Donc, tu sais, je suis qui, moi, pour cracher sur un billet d'avion et un hôtel pendant...
Mais non, mais en plus, t'es un accompagnateur extraordinaire, là, tu sais, je veux dire, vous êtes tellement beaux ensemble, c'est comme...
Ah, merci.
Ah, non, mais c'est comme, dans le fond, vos carrières vont s'engraisser l'une l'autre, là, c'est comme... C'est trop un bon match. Je suis contente de savoir que ce sera pas des fiançailles éternelles, c'est-à-dire que c'est comme déjà, on va l'avoir, le mariage, je sais pas si ça va...
Ça s'en vient plus vite qu'on le pense, mais... non, le sud de la France... J'étais en France à quelques reprises. J'avais visité Paris une couple de fois, Lyon, Toulouse. Mais c'était la première fois que j'allais tant dans le sud que ça. Puis j'ai eu la chance justement de me promener un peu. Avignon, c'est une belle ville, mais c'est pas comme la plus grosse ville. Ok, c'est disons en termes de grosseur, c'est comme l'équivalent peut-être de Drummondville. Mais imagine Drummondville avec des châteaux. Ok, c'est un peu plus pittoresque. Là.
Ça prend une imagination fertile pareil, là.
Non, mais Avignon ne peut pas clamer qu'ils ont inventé la poutine en même temps. Okay? Chacun ses qualités. Fait qu'on a visité les quelques trucs qu'ils ont visité à Avignon. Mais j'ai des amis là-bas qui sont vignerons, puis ils voulaient depuis longtemps m'inviter à visiter leur vignoble. Et là, c'est la première fois que j'allais vraiment dans la campagne française et ça vaut vraiment la peine. C'est vraiment des décors qu'on peut pas s'attendre. C'est désertique un peu. C'est très, très beau. Et écoute, en France, quand on t'invite un vignoble, dites pas non, parce que je vous dis, vous buvez du Moses de bon jus de raisin. Là. C'est pas du Welsh qu'on boit là-bas. Ça je te garantis.
Wow!
J'ai eu la chance de visiter Nice. J'ai tout le temps rêvé de visiter Nice, ne serait-ce que parce que je suis un fan de Brice de Nice. Et très, très, très belle ville. Par contre, j'ai juste passé 48 heures à Nice et je peux te dire, c'est pas pour tous les portefeuilles. C'est une ville très, très dispendieuse. Donc, on se rappelle Nice, c'est la Côte d'Azur. On est à peu près à 45 minutes de voiture de Monaco. Fait que ça pète la broue un peu, comme on dit.
Mais tu vois, moi, je suis allée à Nice, j'étais toute jeune. Ça m'avait marqué parce que c'est pas une plage, c'est des galets.
Oui.
J'ai souvenir, effectivement, ça fait luxueux. Tu sais, quand justement tu marches sur le bord de la mer comme ça, c'est comme les hôtels, c'est comme tout est luxueux autour. Mais toute la Côte d'Azur est comme ça, en fait. J'ai un souvenir d'un monsieur, tu sais, parce que t'as comme des douches côté de la plage de galets, justement, là. Puis, tu sais, il est dans son espèce de string avec cette espèce de grosse poche-là en avant, tu sais. Puis moi, je suis en monokini, tu sais. Puis là, il passe à côté de moi, puis il me dit... Puis là, il prend sa douche, puis il s'envoie les cheveux par derrière, puis il me dit « Vous êtes superbe. » C'est mon souvenir de Nice. Mais je le traîne depuis ce temps-là, ça fait 20 ans que je le traîne. Il n'y a pas de maillot de même ici au Québec. Ça, je m'en plains pas, par exemple. C'est comme ça donne toujours une drôle de physionomie, l'espèce de speedo string du français. Là. Je ne suis pas sûr que tu as eu l'occasion d'en croiser. Juste pour en revenir à Avignon, là, tu sais, la chanson sur le pont d'Avignon, dans le fond, c'est parce, oui. que, c'est parce que le pont d'Avignon, il est coupé. Là. C'est pour ça qu'il vire en rond dans la toune.
Oui, ben oui, le pont d'Avignon, en fait, si je ne me trompe pas, c'est au 15e siècle. À l'époque, j'avais des cours d'histoire. Là, je fumais encore du cannabis au secondaire. c'est loin un peu tout ça. Mais non, écoute, le pont d'Avignon, il a été emporté par des pluies torrentielles et des inondations autour du 15e siècle. Donc, c'est un pont à moitié fini. Puis, ça a quand même son charme. D'ailleurs, on parle de toutes les versions, là, il y a comme un petit musée sur le pont là, qu'on peut visiter avec un guide audio. Et on parle d'ailleurs de toutes les versions différentes dans le monde de la chanson du pont d'Avignon. Et un bel hommage, là. On parle de nous, les Québécois, justement, qui ont adapté la chanson à notre sauce ici. Donc, c'est tout le temps... Moi, je suis un gros fan d'histoire. Donc, c'est vraiment le fun à visiter. D'ailleurs, si vous êtes à Avignon, le truc à visiter, c'est vraiment le Palais des Papes. C'était comme à l'époque, là, on parle pré-18e siècle. C'était le Vatican quand le pape n'était pas au Vatican. Et c'est quelque chose pour vrai visiter ça. Là. On voit tout le pouvoir que l'Église catholique a déjà eu finalement et qu'elle n'a plus aujourd'hui.
C'est cette espèce de règne-là qui était une folie, là, tu sais, je veux dire, c'est incroyable tout l'argent qu'on a mis là-dedans, mais je peux comprendre que de la façon que c'était ils plaçaient le jeu, ça impressionnait tellement que finalement, ça devait toujours ramener encore plus d'argent. Tu sais, d'en dépenser des fois, ça en ramène encore plus.
D'ailleurs, c'est très drôle, pendant que j'étais au palais à Avignon, au palais des papes, j'étais avec des amis à ma conjointe, un couple gay, et c'était le Gay Pride là-bas, et écoutez, je pense qu'on dit juste Pride à cette heure, je veux inclure tout le monde là-dedans, mais je passais sur le parvis du palais des papes, puis j'étais comme, wow, il doit y avoir une couple de papes qui se vêtent dans leur tombe en ce moment, parce que c'était tout un party, pour vrai, là, on
Écoute, on connaît pas les dessous des papes, mais c'est sûr qu'ils étaient pas dans le cuir capitonné, là. OK, ben, dis-moi donc, pareil, dans ce que t'as goûté, là, dans ce que t'as mis dans ta bouche, là, le grand délice, là, tu sais, c'est quoi t'es tombé sous le charme, là, pendant que t'étais en France, là?
Écoute, j'étais dans le sud de la France, et le sud de la France, c'est vraiment réputé pour les truffes. Les truffes, c'est quoi? C'est pas des... On parle pas de chocolat dans ce cas-ci. Les truffes, c'est un champignon qui pousse environ un mètre en dessous de pas n'importe quel arbre, uniquement des chênes. Et pourquoi ça s'appelle des truffes? Parce qu'on trouve ça avec la truffe du cochon, qui est le nez du cochon à l'époque. Les cochons et les chiens sont très, très friands de ce champignon. C'est un champignon très puissant. Ceux qui ont jamais mangé de truffes ou ceux qui vont en manger pour la première fois, bon, il y a peut-être du monde qui vont me dire « Je suis complètement débile de dire ça, mais moi, c'est mon opinion. Ça sent quasiment le gaz à tondeuse. OK? Pour vrai, là, ça, wow. Ça a vraiment, vraiment une odeur puissante. Et mais c'est un goût qui s'apprivoise et moi j'ai été chef cuisinier pendant très longtemps, donc c'est un goût qui se fait des dizaines et même des vingtaines d'années déjà que j'ai apprivoisé. Et écoutez, j'ai eu la chance d'être invité dans un restaurant là-bas qui s'appelait chez Serge. C'est un restaurant qui est quand même, ma foi, abordable pour vrai, là, pour ce qu'on mange. Et c'est dans un édifice du 16e siècle. Et le menu au complet est à base de ce champignon. Donc, on a un tartare avec truffe, on a une salade avec de la truffe. Même, il y a une crème glacée à la truffe pour dessert. Fait que pour aimer la truffe pour aller là, ben c'était une expérience unique, ne serait-ce parce qu'on peut pas... La truffe, faut calculer, là, hors saison, on est autour de 400-500 $ le kilo pour la truffe noire et autour d'à peu près 2000 $ le kilo pour la truffe blanche. Donc, ouais, donc c'est quelque chose en Amérique, c'est pas du tout abordable, tandis que là-bas, mais on la cultive, on la fait pousser, on la récolte. Donc, avoir la chance là, de manger un repas 5 services tout à base de truffes, c'est quelque chose de très unique. Et pour le chef cuisinier en moi, là, je me trouvais très chanceux.
Bon, ben là, je peux pas passer à côté. Là, la cinéphile en moi, là, vu que vous allez tous les deux vous abonner à Crave en fin de semaine pour écouter Elvis, vous en profiterez aussi pour écouter un film très étonnant de Nicolas Cage qui s'intitule Pig. Et là-dedans, Nicolas Cage, son seul ami, c'est un cochon qui trouve les truffes. Là. OK? Mais son cochon va disparaître, il va se le faire voler et on va découvrir en cours de route, il va vouloir retrouver son cochon qu'on va découvrir comme une espèce de monde interlope de la cuisine. Bob, je pense qu'à tous les niveaux, c'est un film qui est fait pour toi. Attention, ouais. Attention les mouchoirs, par exemple.
Ça fait longtemps que j'ai pas vu un bon film de Nicolas Cage.
Ben celui-là, c'est comme un film...
J'ai abandonné.
Non, on est ailleurs. On est plus dans les films d'auteur. Même Penelope Quaid aurait pu t'en parler. Là,
je vais vérifier ça. C'est tout en bas aussi pour l'éducation.
Bon, OK, je t'avertis, celui-là, la morale est quand même raide à la fin. Commence par Elvis, si on peut dire. Je te ramène ici parce que c'est la saison des courges, puis je sais que tu trouves que nous autres, les Québécois, on n'en mange pas tant que ça de la courge. Il y aurait amélioration à faire, là.
Ben, écoute, la courge, c'est plus que du zucchini sur le barbecue. Hein? C'est quelque chose là, qu'on fait souvent. D'ailleurs, quand vous faites des tranches de zucchini sur le barbecue, je veux donner un truc à tout le monde, parce que cet été, là, pendant 3-2-1 barbecue, on en a mangé de la bonne et on en a mangé de la moins bonne aussi. C'est important de faire dégorger la courge que vous allez utiliser, que ce soit de la courge délicata, de la courge butternut, des zucchini, c'est rempli d'eau de la courge, ça paraît peut-être pas. Mais ce que vous voulez faire vos tranches de zucchini avant de les mettre sur le barbecue, les assaisonner avec du sel, puis on attend un bon 20-25 minutes, toute l'eau va sortir du zucchini. Après ça, on les éponge, puis là, on les grille. Au lieu d'avoir quelque chose qui va se décomposer, qui va être comme mollasse en bouche, on va vraiment goûter à la courge. Elle va même caraméliser un peu sur le barbecue. Il reste du beau temps, là, puis le barbecue, anyway, au Québec, on fait du barbecue non-stop à l'année. Fait que rappelez-vous de ce petit truc-là là, pour vos courges. Aussi, ben écoute, tu l'as dit hein, sur ma page Facebook, la page de Bob le Chef, j'ai partagé là, une douzaine de recettes de courges. Même que ce matin, ce lundi, je serai allé en onde avec Marc-Claude Barrette. Si je ne me trompe pas, c'est dès 10h ou 11h du matin, 10h30 du matin. Allumez votre TV après Salut, bonjour, puis je vais être avec Marc-Claude Barrette. Puis je suis avec d'autres cuisiniers, là, et on parle cuisinier, cuisinière, et on parle de la courge, justement. Là, je propose d'ailleurs une belle recette de gnocchi à la courge et au fromage Philadelphia. Les Italiens utilisent beaucoup la ricotta pour faire les gnocchis. Puis moi, j'aime bien ça, américaniser des recettes, utiliser des produits qu'on est un peu plus familier avec ici. Donc, pourquoi pas là, prendre le bon vieux fromage à la crème avec des courges, un peu de farine, un peu d'œuf. On fait une pâte, on fait des gnocchis avec les enfants. D'ailleurs, la recette pour mes gnocchis, elle est déjà en ligne à boblechef.com sur la page d'accueil. Là, vous pouvez aller voir ça.
Comme toutes tes recettes de courge, d'ailleurs, c'est vrai que le fromage Philadelphia, c'est très américain. Tu as dit que tu as besoin de te lever de bonne heure si tu veux trouver ça dans une épicerie à Paris. Là. Ils n'ont pas ça dans tous les détours, comme on dit. Peut-être ceux qui vont aller virer sur ta page de Bob ou l'anarchie culinaire. Moi, je vais te dire ce qui m'a fait flipper, là, c'est vraiment ta sauce bolognaise au rôti de palette.
Ben, c'est l'automne, c'est le temps justement là, de faire des recettes de ce genre-là, des recettes simples, mais qui sont réconfortantes, qui font que ça sent bon dans la maison. Puis acheter quand les petites palettes sont en spécial à l'épicerie. Moi, je dis, c'est le dernier morceau de bœuf qui est abordable. On parle là, d'à peu près 1 piastre de 100 grammes. Fait que t'as un rôti d'à peu près 1 kilo pour à peu près 9 piastres quand il tombe en spécial. Mettez ça dans votre congélateur. On fait quoi avec notre petite palette? On sac ça d'une poêle en fonte. On la fait même pas saisir. Hein, habituellement, on veut faire saisir la viande qui caramélise, que les jus sont en dedans. Mais là, on veut que le jus y aille dans notre sauce bolognaise, que ça goûte la viande. Fait qu'on met simplement la palette entière là, d'une poêle en fonte ou un plat à lasagne. On met une canne de tomates broyées, donc une canne là, d'à peu près 790 millilitres, si je me trompe pas. On met une bonne lampée de vin rouge. On prend le bout en train si on en a à la maison. Une gousse d'ail hachée ou deux, un oignon ciselé, on couvre ça avec du papier d'aluminium, 3 heures dans le four, 3 heures et demie, on sort ça du four à l'aide de 2 fourchettes, on effiloche le tout. On a une bolognaise qui est incroyable sur du spaghetti, sur des gnocchis, mais le restant de notre bolognaise, qui est le fun, si on se fait une soupe aux légumes, on met notre bolognaise dedans, on a des beaux cubes de bœuf dans notre soupe aux légumes, ça donne un beau goût riche. et pourquoi pas, avec notre restant de sauce bolognaise, on met du chili broyé, la poudre de chili là, qu'on met quand on fait du chili, et on met un peu de cumin dans tout ça, et ça fait des tacos à se jeter par terre.
Ah, t'es-tu merveilleux! Merci de rendre la cuisine accessible puis surtout de la garder accessible à mon portefeuille, OK? Puis t'as tout le temps été de même. J'apprécie trop. J'ai découvert qu'il y avait peut-être quelqu'un d'autre qui jouait un peu dans ce total-là. Puis de façon surprenante, j'ai découvert grâce à son décès cette semaine puis à un de tes posts, Coolio, le rapper qui est décédé d'un arrêt cardiaque, semble-t-il, avait déjà fait un livre de recettes puis lui ou tout semblait faire dans simplicité.
Oui, Coolio, à l'époque, moi, tu me connais depuis longtemps, Marie, il faisait des capsules web, là, il y a environ 10 ans de ça, un peu avant que le web explose, Cooking with Coolio, je sais pas si ça se trouve encore sur le web, c'était très, très loufoque et très, très drôle. Moi, j'ai tout le temps été un fan de Coolio, donc comme on dit, rest in peace, puis Coolio, il est officiellement au Gangster's Paradise.
Oh! Puis un rappeur foncièrement positif en plus, comme toi, Bob. C'était un plaisir ce midi, encore une fois. Quelle belle symphonie de t'écouter à chaque fois. Qu'est-ce qu'on te souhaite là, pour le prochain mois? T'as-tu des tournages? Qu'est-ce qu'on te souhaite?
Écoute, je te l'ai dit, après Marc-Claude Barrette lundi matin, je suis officiellement en vacances. Ma conjointe, comme tu le sais, t'a précommandé son livre.
Oui.
Ton nouveau livre, Gardez l'œil ouvert, tome 3, là, qui s'en vient. On décolle le 18 octobre. Venez pas me voler chez nous. Je m'en vais à Paris pendant deux semaines, l'accompagner pendant sa grosse tournée. Et c'est ça, par la suite, là, on se remet sur le dossier de créer des recettes. Beau, bon, pas cher pour tout le monde, puis de profiter de la vie, finalement.
Ah, oh, c'est extraordinaire, je vais te dire. Ça sera pas un luxe de t'avoir pour l'accompagner parce que y a un des salons du livre à Paris où elle a participé. Il y avait une file de 600 personnes.
Et, écoute, j'ai de quoi être fier pour vrai. Ma blonde, elle travaille très, très fort, mais c'est vraiment cool pour vrai tout ce qui arrive avec elle. Là. Écoute, quand on est en France, elle me dit, elle ne prend pas de photos de l'hôtel pour vrai, parce qu'il va être du monde devant l'hôtel quand on va sortir tantôt. Et c'est vraiment cool de voir là, la réaction des gens vis-à-vis ses livres, vis-à-vis ses vidéos sur Internet. Là. D'ailleurs, j'en profite pour la plugger. Si vous ne connaissez pas ma blonde, abonnez-vous à sa chaîne YouTube, Victoria Charlton. Si vous êtes femme de crimes irrésolus,
Et plus, là. Je vais te dire, souvent, elle tombe dans l'hollywoodien, là. Puis c'est comme... ça nous rapproche, finalement, de des gens là, que j'ai vus au cinéma quand j'étais jeune. Puis tout, finalement, tu sais, c'est le crime au sens le plus large qui existe. Et elle a une façon de raconter bien à elle, plus qu'adorable. Je l'aime beaucoup. J'ai déjà hâte d'avoir mon moment avec elle aussi quand vous allez revenir.
C'est certain qu'elle va trouver du temps pour toi, Marie. T'as comme la plug à l'interne.
Merci infiniment. Puis ben à la gloire de celui qu'on a tant aimé comme chanteur, puis de ton fils qui est ici aussi adorable que son père, on se laisse sur une chanson d'Elvis.
Hey, moi, je vous laisse. Je vais me trouver une cantine qui est ouverte.
Ah ouais, non, salut, Bob! Bonne ride!
À bientôt. Salut, merci. Came by today. 'Cause he was telling everyone in town of the love that he just found. And Marie's the name of his latest flame. He talked and talked, and I heard him say that she had the longest, blackest hair, the prettiest green eyes anywhere. And Marie's the name of his latest flame. Though I smiled, the tears inside were burning. I wished him luck and then he said a goodbye. He was gone but still his words kept returning. What else was there for me to do but cry? Would you believe that yesterday this girl was in my arms and swore to me she'd be mine eternally? Marie's the name of his latest flame. Though I smiled, the tears inside were a-burning. I wished him luck and then he said goodbye. He was
passed on, but still his words kept returning. What else was there for me to do but cry? Would you believe that yesterday this girl was in my arms and swore to me she'd be mine eternally? And Marie's the name of his latest flame. Yeah, Marie's the name of his latest flame. Oh, Marie's the name.
Bingo Radio! Contrer l'inflation avec le meilleur fun des dimanches après-midi. Chico donne 3 000 $ et plein de cadeaux. Tous les dimanches, 15h. Détails et points de vente au 969FM.ca, section Bingo. HugoStrong.com.
Straight out of Levy.
Rebel.
Le maire Gendron m'écrit, parce que là, ceux qui viennent de joindre à nous autres, là, ce show-là a commencé une demi-heure en retard, OK? On était obligé de skipper la portion avec Stéphane Gendron. Tu sais, ça n'a pas rapport dans la vie de couper Stéphane Gendron. Là, finalement, moi, je suis arrivé, mais Pierre était là, OK? Au moins, j'ai été béni là-dessus. Bob était au téléphone, c'était le que tel. Notre dernier invité, par contre, lui, est en train de vivre tous les tracas de la journée qui concernent le pont Pierre Laporte, maintenant le pont de Québec, maintenant le boulevard Guillaume-Couture. On sait toujours pas c'est quoi qui se passe. On va le rejoindre tout de suite. Là. Ça rock-tu, Dr. Rock?
Hey, salut la gang. Salut.
Ah, ben tu sonnes bien pareil pour un gars dans son char.
Ouais, ben attends, je peux pas dire la même affaire de vous autres.
Ah, OK, excusez. on va rouler ça de même, là, si ça te dérange pas. C'est de la radio de brousse aujourd'hui, OK?
Ouais, je l'embrousse par après, je peux te le dire.
Mais toi, tu sais-tu c'est quoi qui se passe?
Là, je l'ai jamais su. Je l'ai jamais su tantôt. Je me le demande encore. On dirait qu'il est tombé une bombe à quelque part, puis je comprends rien là-dedans. Là, j'ai tellement tenu mon volant serré pour essayer d'arriver à l'heure. Ça n'a jamais marché.
Ben, je sais, j'ai le cou comme un crowbar.
Ben, c'est épouvantable. Là, je sors du pont de Québec. Là, puis je vais pouvoir rentrer et me parquer au Home Depot pour me calmer un peu.
OK, on va se calmer.
Je vais sur le banc d'en arrière pour m'étendre un peu. Alors, vous parlez parce que là...
Parce que là, tu sais quoi la tristesse de tout ça? C'est que tu vas en faire tous ces efforts-là venir nous rejoindre, puis le show va être fini, puis là, faut tous les deux revirer de bord puis retraverser.
En plus.
Mais toi et trois, toi et quatre, dans le fond, on retraverse
tout.
Tout
le monde dans ce beau bordel-là.
C'est que si quelqu'un a un plan pour nous autres, parce que apparemment même le traversier, ça marche plus, là.
Non, mais il n'y a rien qui marche. T'avais beau googler du Vallon, Henri IV, Pont de Québec, tout est rouge partout, là. Il y a une combinaison
de rouge avec du rouge.
Ouais, de rouge avec du rouge, la grosse fin de semaine, le vendredi, en tout cas.
Bon, ben garde, raison de plus, calmer les nerfs, comme on dit, OK? Là, je t'ai demandé, je t'introduis-tu sur ton spectacle puis tout? Tu m'as dit, non, on commence par le trafic. Mais encore, là, une fois que le sujet du trafic, parce qu'on ne s'étirera pas là-dessus, là, on y va-tu pour ton show à Montréal, au Métropolis?
On peut y aller avec ça si tu veux, mais là, je suis tellement déçu. Moi, là, j'avais amené du Jack Daniel aux pommes.
Hé! Hey! Oh! Maudit, ça se peut pas!
Pour ouvrir la patente, puis ton invité venait juste d'en parler. Je l'ai visité, moi aussi, la série, puis j'appuie tout ce qu'il a raconté.
Ouais.
Là, j'avais le Jack, pour cette raison, imagine-toi.
Bon, mais là, vous comprenez tout le monde qu'on broyera pas, là. Ça sert à rien, OK? Moi, je suis un fond de COVID, en plus. On est tous en survivance aujourd'hui, là. Ça fait que je l'aurais pris, par exemple, ton Jack aux pommes. Mais toi, tu peux t'en prendre une petite ponce pour nous autres. Prends-en une petite ponce pour Guillaume, une petite ponce pour Pierre, une petite ponce pour moi. Une petite ponce des auditeurs.
OK. Hey, j'avais des verres pour tout le monde. J'avais 26 ans avec de la semaine, toi.
Ah, oh, avec ton petit couleur. Tabarouette, t'es un invité en or. C'est pas grave, t'as du beat pour nous autres, OK? Par quoi qu'on commence?
Commençons donc avec le numéro 1, Guillaume, s'il vous plaît, pour illustrer mon show, ma tragédie de cet été, parce que moi aussi, j'ai pogné la COVID.
OK.
Puis, je pensais m'en être remis. Puis, quand je suis arrivé à mon spectacle, après les 2-3 premières tournes, la gorge a commencé à me râler comme ça se trouvait pas. J'ai même pas pu finir le spectacle. On est obligé d'arrêter ça. J'ai fait un coming out de COVID. J'ai dit à tout le monde que c'est qui se passait. On s'est arrêté une dizaine de minutes. Je pense que ça a été plus 20. C'est pas pour rien qu'il n'y a pas de parole là, sur la toune, parce que justement, parce que je n'avais plus.
OK. OK, là, tu parles que toi et ta formation Insane, vous aviez un show que tu probablement qui t'avais hâte, là?
Hey! On renaît ce show-là, ça faisait 2 ans, parce que l'année passée, on devait le faire, et à cause de la COVID, on ne l'a pas fait. Puis là, cette année, on pouvait le faire, puis je suis arrivé là, puis j'ai cassé, ben reste.
Bon, t'as cassé. OK. Ben là, t'auras d'autres occasions de te reprendre, je vois.
Exactement.
Docteur Rock, tu portes le nom de docteur, j'imagine que tu vas te guérir toi-même, là.
Viens de me prendre un petit Jack, là, comme
tu sais. C'est la meilleure posologie. Je te prescris une demi-bouteille de Jack aujourd'hui, ça va bon aller.
C'est parfait. Là, je peux te parler du show que j'ai été voir à l'amphithéâtre que j'ai écouté. Il y avait une track de Clébel et Bray en numéro 2, Guillaume, s'il vous plaît. J'ai découvert là-bas le groupe Sword.
Sword!
Ouais, S-W-O-R-D, ça a été un coup de cœur. Moi, je ne les connaissais pas. C'est un band québécois de Saint-Bruno qui ont roulé dans les années 80. Là, première partie de Metallica, première partie de Motorhead, première partie d'Alice Cooper. Puis, pouf, ils étaient disparus. Là, ils ont réapparu. Ils ont tellement réapparu qu'ils vont venir faire un show à l'Impérial.
Mais tu parles d'une belle découverte québécoise.
Ouais. Puis là, tiens-toi bien. C'est ça, le 15 janvier, ça vient à l'Impérial. Tiens-toi bien. C'est Rick Hughes qui est chanteur de cette bande-là. Nul autre que le frère de Blue Hughes.
Oui, non, je te suis.
Fait que, c'est ça, une gang que je connaissais pas pantoute.
Puis c'est-tu lui le chanteur, le fondateur du début?
C'est calique. Je vais te dire oui, là, mais je me lance dans le vide. Je sais pas pantoute, okay, probablement.
Probablement, mais on n'en sait pas plus. C'est pas grave, déjà, c'est une belle découverte aujourd'hui. Je pensais pas que Rick Hughes était capable de brosser de main.
Ben non seulement il brasse, mais en plus, il fait une tournée présentement solo. Puis le 15 janvier, il s'en vient à l'intérieur. On s'en va après ça en numéro 3. Numéro 3, Guillaume, s'il vous plaît. C'est pour le festival d'été. Il y avait Sum 41, Pennywise, puis Nobro. Nobro, que je t'en avais parlé, qui a fait la première partie.
Je me souviens de ça, oui.
Bon, on n'avait pas eu la trame sonore. Là, je t'avais dit que c'était une inspiration des Ramones au bout. Hein.
Ça sonne
«
Hey ho, let's go! »
Ils sont revenus deux fois. Oui, c'est ça. Ça me fait penser à « Hey ho, let's go! » justement. Ils sont revenus deux fois après le show de Billy Talent. Ils ont fait le festival d'été puis ils ont fait « En vol et macadam », le show punk de Québec.
Ça veut dire que c'est Carl-Emmanuel Picard qui a booké ça. Ça veut dire que c'est un band qui a déjà une belle relation avec les Québécois. Pierre, les as-tu déjà vus? Hein?
J'ai jamais vu. Parce que ben, cet été, j'ai raté ce show-là. J'ai essayé d'y aller, mais comme tous les shows qui étaient au pigeonnier, c'était quasiment impossible d'y aller à moins d'arriver à 2h d'après-midi. Là.
Ouais.
Hey, on en parle-tu de ça?
Ouais.
Ça partait du pigeonnier, ça descendait sur René Lévesque, la file, ça s'en allait jusqu'à la fontaine de Tourny.
Ce qui est le fun pour te changer les idées de ton trafic d'aujourd'hui, c'est qu'on se parle de la file au pigeonnier.
Ouais.
Là, moi, mon plan, là, je me suis dit, je vais rentrer au pigeonnier. J'avais sous-estimé ce show-là parce que Sum 41 devait faire partie de la tournée de Billy Talent il y a 2 ans. Puis, il était en première partie. Là, je me suis dit, bon, il n'y a pas tant de monde qui aime ça, finalement. Il y a plein de bouchons. Un coup rendu en dedans, il y avait une file d'attente pour de la bière, pour les toilettes. Il n'y avait rien à manger. Moi, mon plan, c'était de rentrer là. Je me suis dit, on va regarder nos bros, on va aller luncher sur la Grande Allée. On va revenir pour Pennywise, Sum 41. Et c'est bon. J'ai jamais sorti de là. Il y avait une file de 100 pieds. Il y avait deux comptoirs, OK? Un comptoir de chips, un comptoir de bière. De chaque bar, S-West. Les deux files se croisaient en plein milieu. À ceux qui, à un moment donné, j'ai pogné un gars, j'ai dit, garde, je te jette ton chip, là, je suis plus capable. Il me l'a vendu 5$. J'ai parlé avec un autre gars, vends-moi une bière. Il me l'a vendu 20$. Ça fait 2 heures, man, j'attends pour ça. Je te donnerai pas certain. J'ai bien raison, garde-le donc. J'ai acheté un Pepsi à un autre gars, Saint-Pierre. Ça a été ça, mon nom.
Hey, moi, je pense jamais à ça. Faire des offres sur le terrain au monde qui ont réussi à faire la file, c'est pas fou. Ça prend un budget, par exemple. Là.
Ben là, il y avait plus de limites. Là, je suis en train de perdre connaissance.
OK. Au travail, OK, mais là, on doit avoir des histoires pareilles où ça a tout bien été, là, que t'as eu le temps de souper puis que t'as eu le temps de te saouler, mettons.
Saouler, non.
Non?
Pas du mois de même. J'avais encore des histoires à te raconter. C'est sûr que mon show de testament est extraordinaire, là. C'est ça, c'est en numéro 7. On va sauter une couple d'étapes, là. En numéro 7, Guillaume, s'il vous plaît, là. Testament Exodus. Il y avait Dead Angels ici au Métropolis. Ça, c'était extraordinaire. Il y a de la place là-dedans au Métropolis pour 2300 personnes.
Ça, c'est une belle
On aurait dit qu'on était 3000. Parce que là, c'est comme une réunion intime de tous les métalleux de la province. Tu vois, là. Ça jasait ensemble. C'était content. L'alcool coulait à flot, mais aucun débordement, pas de bataille, pas de niaisage. C'est tout était cool.
C'était-tu old school, c'est-à-dire que tout le monde avait sorti son gilet de 1992?
C'était tout. Tout était là. Tout au complet, là. Écoute, c'était tellement là, cool, là, que quand Exodus a fini, Exodus, là-dedans, il y a Gary Holt, hein, l'ancien de Slayer. Là.
Oui.
C'est un fan qui quand on écoute. Entre Exodus et Testament, là, pendant qu'il remontait le stage, là, ça faisait du body surfing par terre. Juste avec la musique d'ambiance, même le bois.
Mais est-ce que c'est pas un cadeau inestimable de voir Exodus dans une petite salle de même? T'sais? Parce que t'sais, souvent, ils parlent du Big Four. Là. T'as Megadeth là-dedans, Metallica, je pense c'est Slayer puis Anthrax, mais il y en a beaucoup qui disent que ça devrait être le Big Five puis qu'Exodus devrait être inclus là-dedans.
Je pense que t'as raison.
Ça se peut-tu? Parce que c'est quand même, je veux dire, c'est comme on était à la source du heavy metal. Ils sont là depuis le début, là.
Ouais, mais Exodus, c'est un peu moins accessible là, que Megadeth et Metallica, mettons. Là.
Ouais, mais c'est Dave Mustaine que j'ai entendu dire qu'il devrait être dans le Big Five.
Au départ, dans Exodus, il n'y avait pas le guitariste de Metallica, Kurt Hammett, là-dedans?
Yes, Kurt Hammett.
Ouais, c'est ça,
là.
Avant.
Ah, oh, ouais.
Ouais, au début,
ouais.
Là.
Ouais.
Avant, dans le fond, quand ils ont kické Dave Mustaine out, là, c'est lui qui a passé à embarquer dans Metallica, mais avant, il était là au départ.
Exact.
Ben, je tiens mon point, je pense que ça devait quand même. Ça déplace les foules, là, Exodus. Là.
Ben, regarde, tu Marie, j'ai une photo. C'est sûr qu'on on la verra pas parce qu'on est à la radio, mais c'est un de mes chums qui avait mis ça avec ses autres chums qui ont été aussi. Là, il était au Fofon électrique avant le show. Fait que tu vois le genre de gars avec des t-shirts métal puis des barbes. Pis,
C'est ça, puis il y avait du headbanging en masse. Là.
Oh, oui, oui. Oui, ça
je te d'une belle sortie, puis Testament, c'était comment le son, puis tout?
Tout était parfait. On peut mettre, mettons, 4 étoiles au lieu de 5 à cause du choix musical, mettons, là. Exodus a fait lever plus le parti que Testament.
Mm-hmm.
Puis maintenant, t'as Dave Lombardo, hein, qui est au drum, là, de Testament.
Ah, ouais.
Là. Ouais.
C'est parce que je pense que le drummer de d'habitude, que je connais pas son nom, il était avec les Misfits pendant un temps.
Ah.
OK, écoute, on se fait du ragot métalleux, là. Mais je pense que c'est ça qui se passe. Ça se croisait, les deux tournées. Fait que là, c'est pour ça que Lombardo, il est venu comme en renfort, là.
OK.
Mais c'est pareil, ça fait relever encore plus le niveau de la tournée, là. C'est une belle tournée, ça, finalement.
Hey, c'est ça, au bout, t'en maudit. Puis il faut souligner, là, Chuck Billy, là, pendant le show, là, mesdames et messieurs, là, accueillir... Dave Lombardo, c'est le pitbull, c'est total. Tout le monde était content de le voir là.
Wow! Puis Chuck, lui, c'est comme... Il a encore toute son énergie, toute sa vigueur, puis tout?
Tout était là. Il n'y avait juste pas son micro qui fait du air guitar avec.
Ouais. Moi, je me suis habitué à ça.
Il avait un micro ordinaire, puis il faisait du air guitar secret. Non.
C'est tout un personnage, Jean-Pierre, on est-tu d'accord? Hein? Chanteur de Testament, là, je veux dire. Il n'y en a pas deux de même, tu le reconnais de loin, là.
Oh oui, tout le temps.
OK, fait que ça, c'est une soirée fabuleuse. Les Death Angels, c'est-tu bon, ça?
Oui. Il y a du monde qui était là juste pour ça. Là. Ouais. Moi, je les connais pas. Moi, je les ai vus trois fois, mais je connais pas leur répertoire. C'est... Je suis moins Dead Angels que, mettons, Exodus. Là. Mais il y avait du monde qui était là juste pour ça. Puis c'était du bonus pour le reste. Mon chum... tu me croiras pas, il y a une madame qui vient de poser une question.
Je parle sur Guillaume.
Savez-vous ce qui se passe sur Guillaume Couture? Oh,
madame, il y a un accident sur Guillaume Couture.
Je n'ai pas été capable. C'était pas... Puis là, je suis en angle. Voulez-vous dire bonjour aux auditeurs? C'est GMS avec Marie-Saint-Lô et Guillaume. Dites bonjour.
Bonjour.
Bonjour tout le monde, les étudiants.
Voilà.
Hey.
Philosophique.
Merci, à la prochaine.
C'est une
sirène de police. Ah, OK, parfait. On va nous en parler.
Tu vas pas faire un petit shot de Jack, c'est tout?
Dans son char, ça paraît mal un peu. Là.
Pour la calmer un petit peu.
Mais là, t'étais, dis-moi donc, Dr. Rock, as-tu toute ta combinaison de Dr. Rock aujourd'hui? Mais moi, tu l'as attiré.
Ouais, ça doit être ça. Je suis all fit. Moi, tu sais comment est-ce que je suis.
Ah, oh, tu t'en es ici, tout le look léché puis tout. Là, dis-moi donc, dans tes prochaines sorties, là, parce que j'aime ça que depuis que tu collabores avec nous autres, on sait comme plus c'est quoi le calendrier des événements musicaux qui s'en viennent. Là. Y a-tu quoi qui s'en vient à côté duquel faut pas passer?
Ben là, on va y aller, mettons, facile. Là. Demain, on barre le cluster. Il y a une réunion d'une trentaine de bands, de musiciens, je veux dire. Ça s'appelle le Jam Rock au bar Le Cluster. Mm. Ça, c'est sur Guillaume Couture. Fait que ça, c'est tous des rockers qui sont là qui vont faire un bon spectacle. Mais sinon, t'as Merci Full Fight le 11 novembre à Place Belle qui s'en vient.
Okay.
En numéro 10. Numéro 10, Guillaume. Fais-nous jouer ça, là. Merci Full Fight, tu te rappelles de ça, Marie?
Non.
Fait! Avec King Diamond, c'est ça?
Oui, je me souviens de King Diamond.
Bon, ben, juste avant King Diamond, c'est Merci Full Fight.
Je me meurs d'aller d'un jour de même.
Ça, là, Merci Full Fight, ça. L'album Melissa, puis l'album Don't Break the Oath, c'est des chefs-d'œuvre. Assez que Metallica.
Ben, c'est ça, je partais pour dire.
Je par là. Metallica l'a fait en cover. C'est
hey!
Un album, c'est ouais. Bon.
C'est quel album, Pierre?
The Raging.
Ouais, exactement. Juste pour vous dire, là. J'ai regardé, là, ils sont en tournée présentement, là. Puis au Wacken, là, festival en Allemagne, là, ils ont invité Merci Full Fight. On a le droit de voir les images là, sur YouTube. Là. C'est extraordinaire. C'est quasiment fidèle à le 30 ans.
Tabarnouche, OK. Ça vieillit pas en plus. C'est fantastique.
Ouais.
T'avais-tu d'autres c'est suggestions ça. Pour nous autres ou t'attends de revenir en studio nous en parler?
Le 24 février, ben là, c'est parce que je t'ai arrêté dans le parking. Là. Non, j'attendrai pas. Le 24 février, Anastasia Symphonique, que je t'avais parlé, là, le maire de Metallica Symphonique.
Oui, oui. Ben, j'ai même vu, il y a un panonceau sur le bord de la capitale pour l'annoncer.
Oui, exactement.
J'étais allé, moi, un printemps passé.
Les voix sont si bons que ça, ils ont une réputation
c'est bon.
D'enfer.
Oui, c'est excellent, pour vrai.
C'est extraordinaire. Après ça, on a Pantera Reunion Survivor pour 2023. Wow. Pantera qui veut se relancer en numéro 11, Guillaume, s'il vous plaît. T'as le chant. Réunion Survivor, c'est pas pour rien. T'as le chanteur, le Phil, il y a le baseman Rex. Il cherche deux autres personnes pour compléter la patente. Mais il y a déjà un show qui est prévu là, en décembre. Cette année, là, dans le coin du Brésil, ils vont déjà faire des
Mais c'était pas fait pour la guitare et le drum?
Comment tu dis ça?
Ouais, ben c'était pas déjà trouvé, là, le guitariste et le drummer.
Ouais, mais j'ai pas le nom.
Ben, il me semble que j'avais vu Zach Ward passer.
Ah oui, c'est vrai! T'as raison, excuse-moi, je me suis trompé dans mes
sons. Gardons ça si on se complète bien cet après-midi.
Hey, tu fais bien de me ramener, Colin. C'est Zach Wilde, la guitare.
Un genre d'inconnu du nom de Zach Wilde.
Oui, c'est Zach à la guitare, puis il y a le drummer de N-Track.
C'est ça.
Il va être au drum. Exactement. Puis il y a Kerry King aussi qui va repartir quelque chose qui va ressembler à Slayer.
Ouais, lui, il a pas pris la fin de Slayer. Je pense que ça a fini trop tôt pour lui. Il est pas prêt pour la retraite.
Exact, il est pas prêt.
Mais il a le droit.
Sinon, là, il y a Kiss qui sont en tournée présentement. Ils font une croisière. Numéro 6, Guillaume, s'il vous plaît. Kiss Tour Cruise. Le 24 octobre, première semaine. La semaine, ils sont deux semaines. Ils partent une semaine, ils reviennent, ils rembarquent un autre gang, puis ils refont une autre semaine.
Tu vas-tu à faire?
Non, je ne le sais pas. Parce que la semaine que j'aimerais aller est sold out. Là-dessus, tu as Black Label. Ça a été Buck Cherry, Pisto Blanco, que j'avais déjà parlé, la fille d'Alice Cooper. L.A. Guns, ça c'est le drummer de Guns N' Roses qui a reparti un hommage à Guns, de Lita Ford, de plein de beaux membres.
Lita Ford, arrête donc, elle tourne encore!
Exact.
Wow! Ça, c'est une femme fascinante, on pourrait faire une émission juste sur elle.
Puis là, ça part de Los Angeles, puis ils s'en vont au Mexique, à San Lucas. Là, la tune que vous attendez, le Rock'n'Roll All Night, hein, ça, là, ça a été fait sur ma dernière croisière, hein, qui avait Megadeth, Anthrax, Dead Angel, Overkill, Testament, c'est Chuck Billy qui est en train de chanter. Ils ont fait un show, ce gang de fous-là, de Kiss, sur le bateau de Megadeth. Tu sais, Kiss, on dira ce qu'on voudra, là, ils se font chier sur la tête par ben du monde, parce que c'est ton Ketten, c'est ça, mais c'est bon, ils sont vraiment respectés, parce que quand t'as des bands comme Anthrax, des Dead Angel, font un après-midi de Kiss, un jam de Kiss. Moi, je trouve qu'ils ont du respect à pas mal pour eux.
Hey, non, mais qui a envie d'être pas fin avec Paul Stanley? Tu sais, dans la vie, ouais, là.
Je comprends, mais c'est parce qu'ils sont tellement marketing qu'ils sont capables. Tu sais, Gene Simon, là, a déjà dit que c'était lui qui avait inventé le signe du... Tu sais, le signe, là, qu'on se met le petit doigt puis l'index d'un verre, là.
Ouais,
le
devil, là.
Quand c'est Ronnie James Dio, que c'est sa grand-mère sur le trottoir qui chassait les mauvais esprits avec ce signe-là, c'est lui qui a décollé ça. Mais John Simon, lui, il dit que c'est lui qui a parti ça.
Oui, il dit aussi qu'il a baisé à peu près 6000 femmes dans sa vie, c'est beaucoup.
Ben, hein? C'est ça. C'est pour tous les racontants.
Il dit aussi que sa langue est comme coupée en tout. Ça, je suis pas sûr si c'est vrai.
Ouais.
Es-tu longue de même pour vrai ou s'il l'a coupée? C'est ça qu'on sait pas.
Ben non, il y a une greffe.
Oh! Une bonne greffe de langue pour Jane Simmons. En tout cas, moi, Kiss, je les aime, là. Tu m'offrirais un billet pour aller sa croisière. Je suis pas mal sûr que j'embarquerais dans cette histoire-là. Mais on y va pas, là. Bon.
Moi aussi, j'irais. Ben, là, les billets qui restent, là, le billet le moins cher est à 1200$ d'une cabine avec 4 personnes.
Ouais.
1200, t'as pas le billet d'avion, t'as pas l'hôtel là-bas, ça prend une grosse semaine.
C'est comme Pierre, là. Tu pars juste avec ton carry-on. 4 paires de bobettes, tu peux pas te payer d'autre chose que ça rendu là.
Exact. Oui.
On a-tu fait le tour, nous autres?
Ben, il reste sûrement des affaires à dire. J'aurais pu te parler. Ah, je voulais te parler du film au Woodstock 99 qui est sorti cet été.
Ah, oh, j'ai pas vu ça. Sur quelle plateforme t'as écouté ça?
Netflix.
OK.
Ça a été sorti par Michael Land. Pas Michael Land, qui est décédé il y a 78 ans, le 8 janvier 22. C'est lui qui avait fait Woodstock 69 et Woodstock 94. Ah. Fait que là, il fait Woodstock 99, mais là, on a la version documentaire. Tout le clash qui est arrivé durant ce Woodstock-là.
Quel bordel, là.
Ça a été transmis, ça, sur MTV, puis à radio. Il y a 400 000 personnes qui ont passé là dans la fin de semaine. Il y a eu des émeutes qui ont manqué d'eau. Ça a été fait sur une base, une ancienne base militaire qui était désaffectée là-bas. C'était tout en ciment, puis il y avait des hangars. C'était baqué pour faire des bons shows. C'était Offspring qui était là. Il y avait Korn, Rage Against the Machine, Metallica. Ouais, en 4, Guillaume, tu étais numéro 4. Metallica et Megadeth. Il faisait tellement chaud, là, aucun arbre pourrait se cacher autour de ça. Le monde se couchait autour des trailers de vente pour être à Londres.
Ça, c'est dur d'imaginer qu'avec un listing de même, ça finit que c'est un flop.
Ben, c'est à cause de l'organisation. Là, là, la version que vous entendez, là, c'est Metallica live là-bas, à Woodstock 99.
Mais le documentaire, il est-tu bon? Tu me le recommandes-tu? Je vais avoir du temps en fin de semaine.
C'est extraordinaire, Marie. C'est extraordinaire.
Ben, c'est vraiment excellent.
Tu l'as-tu vu, Guillaume?
Oui, je l'ai vu, sérieusement, puis ça vaut la peine d'être vu. Tu vois la déchéance aussi, puis le monde était sous, ça faisait 10 minutes de test ouvert. Il était déchiré complètement. Il n'y avait plus rien à faire. C'était déjà voué à l'échec. Là. C'était... Mais pis ça, là, les bands ont mis le feu, là. C'est carrément. Là. C'est le monde en bas.
Il y a eu des feux.
Oui.
Ben, je me rappelle de ça. Moi, c'était-tu pas mal chaud de Limp Bizkit qu'on voyait le feu brûler à l'arrière ou...
Je me rappelle pas, mais il y en a eu plusieurs nids d'incendie. Puis, tu sais, la dernière journée, il faisait tellement chaud, là, les bouteilles d'eau étaient vendues 8 piastres. Le monde n'avait pas une scène, plus d'eau, puis rien à manger. C'était épouvantable.
OK, excellente suggestion, encore une fois, Dr. Rock. Aujourd'hui, moi, je pense que... Je sais pas comment Dominique Perrault, qui anime le party 969 après nous autres, va faire le lien avec ça, mais on sauve-tu une de tes chansons au complet? On fait-tu du Exodus?
Ben, on a-tu, on a pas, on a-tu Exodus, nous autres?
On a-tu ça, une tonne au complet? Qu'est-ce qu'on écouterait comme pour gâter nos auditeurs qui sont pris dans le trafic ou parqués à quelque part? On raconte qu'il y a une file de vieille madame qui s'enligne sur Guillaume Couture pour aller te poser des questions.
Exodus.
Il y a l'album, le nouvel album d'Ozzy qui a sorti, Passion No. 9. Ouais. On peut décoller ça, c'est en numéro 8, Guillaume.
C'est-tu une toune complète, ça?
C'est une toune complète.
Ben, c'est ça qu'on va faire, on va l'écouter au complet. On va se gâter là, pendant qu'on a les ondes à nous autres. Là.
J'en profite pour dire que Slipknot a sorti un nouvel album aussi, qui est très fidèle à eux autres. Puis Lamb of God aussi a sorti un nouvel album.
Bon, mais tu parles si c'était une belle actualité métalleuse ici aujourd'hui. Encore un peu, on se voyait, hein?
Ben, je peux y aller, là, si vous restez là encore un bout.
Ben,
On n'est pas parti.
On sait pas comment s'en aller du site.
Ah, ben, je m'en vais vous trouver.
Ben, viens nous offrir une petite pause de Jack dans le parking, toujours.
OK, à tantôt.
Le temps de remercier toi, Pierre Blais.
Ça fait plaisir.
Merci, t'es une visite extraordinaire. Les histoires, la guitare, puis tout. Guillaume Dionne, qui a orchestré ce show chaotique de façon de main de maître.
Plaisir.
T'es une fée de la console. Je te dis, t'es merveilleux. Remercier Bob le chef, fidèle collaborateur dans ma carrière. Comme je ne pouvais pas espérer avoir des meilleurs amis que toutes vous autres autour de moi aujourd'hui. Vous autres, les auditeurs, merci d'avoir été là. Envers et contre tous. On va être de retour vendredi prochain. Mais là, on écoute ça, Tundazi. Vas-tu l'enchaîner? Oui, c'est ça qu'on fait. OK.
C'est beau. C'est...
Alors, on, je ne sais même pas si c'est bon. On l'essaye. Bye bye.
Excuse me. Could you tell me to get out? Will die.
Le bingo?
Le bingo?
Ah, le bingo de CJMD!
Qui?
Ben oui, le bingo de CJMD! On donne 3000 piastres à chaque dimanche, puis on fait plein d'heureux.
Le
bingo de CJMD. 903-7969 pour les détails.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.